Nous sommes mercredi 13 mars 2019 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Bonsoir Drosgar.
Bonsoir tout le monde.
Et bonsoir Antix.
Bonsoir.
Ah, alors nous avons une émission relativement chargée ce soir. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de spoiler. Excusez-moi, j'ai un peu de retard sur le spoiler.
Ah!
Puisque on va reparler de jeux physiques sur Switch. Il y a eu plein de sorties de jeux physiques ces derniers temps et je me suis dit que ça valait le coup de repasser un tout petit peu de temps là-dessus, notamment pour réexaminer la stratégie d'un certain nombre des acteurs de ce domaine-là. On va parler un petit peu de Valkyria Chronicles 4. Alors je sais qu'il est sorti il y a longtemps, mais il se trouve que nous avons un chroniqueur surprise. Antix ?
Oui. Je suis pas surprise, hein, je suis toujours là.
Ah merde.
Il est surpris de te voir en tout cas.
Surpris que tu sois là, qui a, je cite, poncé le jeu en long, en large et en travers, donc qui est capable de nous faire un vrai retour.
En tout cas, je vais bien retourner sa mère.
Voilà. Il n'y aura pas de critique sur le dojo, je pense, en tout cas écrite, donc du coup on en profite dans un dojo bar. On va parler un tout petit peu de la politique mobile de Nintendo, qui apparemment ne serait pas assez agressive de ce qu'on nous a dit. On va parler du Nintendo VR, cet outil génie. Révolutionnaire, génie qui va se vendre mieux que le PSVR, en tout cas c'est ce qu'on espère.
Ou le Virtual Boy, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.
C'est aussi tout le mal qu'on lui souhaite, effectivement. Mais nous allons commencer tout de suite par les 2 ans de la Switch. Attention, 1, 2, 3.
Joyeux anniversaire.
La console de Nintendo.
Joyeux anniversaire.
La PS2.
La console de Nintendo.
Bon, ça suffit. Voilà.
Voilà, c'est les 2 ans de la Switch l'année prochaine.
On débouche le champagne. Alors, la Switch a 2 ans. Comme on a déjà fait un bilan au mois de décembre, on va pas forcément revenir dessus. On avait déjà fait nos projections pour 2019, donc c'est pareil, on va pas forcément revenir dessus. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, comment est-ce que vous voyez les choses pour la Switch dans les, enfin, d'ici, on va dire, à la fin de sa vie. Elle doit être pas tout à fait au milieu de sa vie, mais on s'en rapproche progressivement. Hein, le cycle classique pour une console, c'est entre 4 et 6 ans. Donc là, on est à un petit tiers. Moi, je dirais que le bilan du début de sa vie, il est plutôt positif.
Une étagère de Billy, pour ma part.
Ouais, alors moi, c'est genre 4.
Ok. Ah si, j'ai entamé la deuxième, oui.
Parce que j'ai un peu bourré.
Ok. Vice.
Mais oui, mais c'est un peu ça. Non, mais en fait, un jour, je prendrai une photo, je pense que ça... Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui relisent tout un tas de jeux physiques qui m'intéressent vachement, et du coup, c'est relou. Alors que sur Wii U, ça va, tu as acheté un jeu par mois, t'étais à peu près dedans, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, il y a beaucoup de jeux qui sortent, il y a beaucoup de jeux indés qui sortent, il y a quelques jeux de gros éditeurs qui sortent, pas tous. C'est étonnant de voir des gens comme Electronic Arts toujours frileux, par exemple. C'est étonnant. Bah, aujourd'hui, il y a Unravel 2 qui doit être genre le deuxième jeu Electronic Arts sur Switch, une connerie comme ça.
Bah, il y a les FIFA, quoi.
Et les FIFA, ouais. Et je suis étonné de pas voir un Madden, par exemple.
Ah, ça, c'est plus étonnant pour les États-Unis vu que la console marche bien là-bas.
Ouais, c'est un peu ça. Puis en plus, effectivement, le Madden que tu peux trimballer partout avec toi, je pense qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Donc, si c'est une version réduite, même si c'est une version un peu moins jolie, même si c'est... Enfin, je sais pas. Ça me paraît toujours un peu bizarre.
Après, Electronic Arts, c'est pas l'éditeur connu pour avoir les meilleures décisions
non,
en termes
mais,
de gestion de à peu
moment,
près tout.
Même en dehors des décisions, je veux dire, c'est pour moi un des grands absents, parce que finalement, Bethesda... Ils sortent des jeux, ça
plus
se passe
présent
bien.
Qu'Activision. Hein.
Voilà, Activision c'est pareil, je les trouve hyper frileux.
Non, bah alors Activision c'est... Eux ils sont dans la stratégie du « on sort que si ça marche ». Et de toute façon ils ont plus Call of Duty comme licence, donc ça règle le problème.
Oui, c'est un peu ça aussi.
Ouais, puis il me semblait qu'il y avait un projet de portage de Call of Duty, ou alors en tout cas au tout début une allocution d'Activision sur Call of Duty. Donc c'était compliqué pour des raisons techniques. Je pense qu'ils
sûr.
Ont pas envie de se faire
parce
chier à faire un portage
parce
énorme
Doom
tous les ans.
Tourne, parce que Doom ne tourne pas du tout sur Switch.
Oui, mais c'est un jeu, alors que Call of Duty, ça voudrait dire tous les ans. Et que le... Enfin, je sais pas exactement comment les portages se font, mais il me semble que c'est quand le jeu est terminé. après, il y a un studio de portage. La plupart du temps, c'est comme ça.
Ça
a
c'est
sous-traité. Ils aiment pas l'argent, c'est pas grave, on a compris. Ils sont philanthropes. Voilà, c'est beau, hein, dans mon
jeu. C'est vrai qu'Activision aime pas l'argent.
Mais je veux dire, ils ont les moyens, ils ont les ressources, le succès est là. Alors après, peut-être que ça colle pas au public de la Switch, et ça, je le comprends parfaitement. C'est peut-être un peu l'inquiétude pour le futur. C'est finalement, aujourd'hui, les jeux indés, ça marche hyper bien. Je pense que. Tout ça le dire, mais même eux le disent. Je veux dire, les mecs de je sais plus qui disaient on vend pour 4 copies sur Switch, on vend une copie sur PS4. Enfin, c'est juste monstrueux la quantité de jeux qui se vendent sur Switch, dématérialisés ou matérialisés d'ailleurs. C'est cool, aucun problème là-dessus, ça a vraiment l'air d'être hyper actif comme environnement. Et étonnamment, je trouve que en dehors de 2 ou 3, les gros éditeurs sont toujours frileux. Alors que sur Wii U, ils étaient tous là, genre on va faire tous les portages du monde, et puis au bout de 3 mois, tout le monde avait arrêté.
Bah c'est peut-être pour ça d'ailleurs.
Ouais, il y avait le succès de la Wii derrière aussi. Je pense qu'il y avait aussi cet effet de dire, à 100 millions d'exemplaires, intéressé donc du coup de développer une...
Nous avons pas la console...
Allô ? Oui.
Pense que tu ne parles pas assez fort ou pas assez près de ton micro.
Là, oui, donc je disais, où est-ce que vous m'avez perdu ?
C'est pas grave, recommence, je couperai au montage.
Oui, donc je disais, avec la Wii U, il y avait le précédent de la Wii qui s'était vendu quand même à 100 millions d'exemplaires, donc les éditeurs avaient eu le temps de voir venir de construire une politique pour la prochaine console, donc la Wii U. La Wii U a eu le succès commercial qu'on lui connaît. Donc je pense qu'ils ont peut-être pas...
Éblouissant hein, comme succès commercial.
Incroyable.
Incroyable, on ne voit jamais de Wii U d'occasion. C'est bien que les gens, ils l'adorent cette console.
Ça c'est, c'est
bah, j'ai envie de te dire,
mieux vendu que la Xbox.
Tous les exemplaires vendus en France se trouvent dans ce Chap Mumble. Il y a moyen.
Et je n'en ai même pas.
1 million et quelques d'exemplaires en France, hein, la Wii U, hein, je rappelle.
Mais
on est tant que ça, putain.
On est beaucoup sur ce chat.
Mais donc du coup voilà, je pense que c'est vraiment parce qu'il y avait le précédent de la Wii qu'ils ont pu voir venir. Après je sais pas combien de temps ça prend de développer une politique pour une console, mais je sais peut-être il y avait ce petit côté frileux au lancement de la Switch.
C'est évident qu'il était au lancement, mais quand tu vois le... Je veux dire, pour moi au lancement oui c'était évident qu'il y en avait plein qui étaient réticents, et il y en a qui ont vu venir le coup en se disant ça va être énorme. Je pense que Bethesda l'a vu venir, je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont vu venir en se disant ça va vraiment être un gros truc, donc il faut absolument qu'on soit présent. Et je m'étais dit, voilà, sur la première année qu'il n'y ait pas grand monde dans les gros poids lourds, hein, les 2K, les Tech 2, je parle vraiment des très gros, c'est finalement pas très étonnant sur la première année. Sur la deuxième, ça devient quand même un peu plus bizarre parce que ça se vend. Ce qu'ils ont toujours demandé, c'est une console qui se vend. Là, il y a une console qui se vend. Alors comment ça se fait qu'ils n'essayent pas de vendre ? C'est quand même un peu leur boulot. Donc je trouve ça super étonnant qu'au bout de 2 ans de vie, finalement, la perspective pour les 2 ou 3 ans qui viennent, c'est Electronic Arts toujours pas, Activision probablement pas non plus. Alors voilà, après, je sais pas, Activision a quand même eu un petit succès avec Crash Bandicoot, apparemment.
Ah, d'accord. Bah c'est cool.
Si ça peut lancer une politique, c'est pas mal. Mais je veux dire, enfin, encore une fois, genre Bethesda par exemple, ils avaient déjà la politique de porter leur jeu sur tout ce qui est possible et inimaginable. Il y avait peut-être cette croyance en la Switch. Non, bon, de toute façon, on est parti pour porter Skyrim sur un frigo connecté, donc pourquoi pas sur Switch finalement.
Oui, mais en plus Bethesda, ouais, tout à fait. Ça, je suis d'accord. Bethesda, je pense qu'en fait, ils se sont fait surprendre parce que quand tu regardes les jeux qu'ils ont sortis sur Switch au départ, c'était vraiment des portages. Alors que maintenant, les jeux qui sortent sur Switch depuis quelques semaines, quelques mois, ils sortent en simultané sur Switch et sur les autres plateformes. Alors que, je rappelle, le Dark Souls Remaster, par exemple, 6 mois de retard sur Switch. Alors que, enfin, je vois pas comment ça se justifie techniquement. Wolfenstein 2, il est sorti sur Switch avec 2-3 ans de retard. Doom, pareil, il avait 2 ans de retard. Ça me choque pas pour un lancement, c'est effectivement, faut le temps que la mécanique se mette en place, faut le temps que les mecs se rendent compte que oui, ça peut se vendre, faut qu'ils fassent du test market aussi, hein, clairement. Et ressortir Doom sur Switch, c'était un pari aussi, de dire, bah, on va mettre un peu d'argent dans un portage, c'est un portage ambitieux, ça nous permet de démontrer que, ça nous permet de vérifier s'il y a un public pour ça. Et du coup, Doom Eternals, il est indiqué comme étant sorti simultané sur les 3 consoles du marché, plus PC, pas de problème. je trouve ça quand même très curieux que effectivement il n'y ait pas d'autres signes. Je m'attendais à ce qu'Electronic Arts, avec son voilà, qui est un bienfaiteur de l'humanité bien connu, qui essaie de faire du pognon.
Tout à fait.
Je m'attendais à ce que fric égale pognon et que du coup ils disent bah, banco, pour tous les projets qui sont en cours et qui sont pas suffisamment avancés, bah, on prévoit dans le pipeline la version Switch en même temps. Surtout qu'il y a les outils sont dispo sur les Unreal Engine 4, les Unity, les choses comme ça. Alors Electronic Arts n'utilise pas trop de l'Unreal Engine, mais enfin ils utilisent d'autres trucs
les autres qui sont capables d'adapter. Ils ont Frostbite qui est maison. Hein.
Oui, Frostbite qui est pas porté sur Switch d'ailleurs, en l'occurrence.
Mais
c'est peut-être, ça fait peut-être aussi partie des problèmes. Hein. Ils ont peut-être techniquement un vrai problème pour porter leur moteur maison sur Switch. C'est pas impossible.
Oui, ils ont porté FIFA. Il me semble, c'est FIFA.
Mais,
hein,
mais c'est pas du Frostbite.
C'est Electronic Arts. Ah, c'est.
Mais la version Switch, ça tourne pas sur Frostbite.
Ah d'accord, ouais.
C'est pour ça que t'as pas le mode carrière ou je sais pas quoi.
D'accord, ok. Il me semblait, ouais, d'accord. Donc c'est le moteur Frostbite, bah, peut-être, je sais pas.
Soit c'est un moteur Frostbite Lite, mais ça m'étonnerait. Ce que j'avais compris, moi, c'est que c'était un moteur qui avait été pas créé exprès pour, mais ils ont dû récupérer le moteur des FIFA PS3 et puis le porter sur Switch. Et le
oui, ils ont décollé un truc light.
Oui, ils ont décollé un machin vite fait. Général,
Donc voilà, je sais pas si c'est un problème technique ou pas, mais c'est le moteur de FIFA 96, nous dit-on. C'est possible.
Et Fallout 76, non, ça va.
FIFA 76, ah ouais.
Être bienfaiteur de l'humanité, ça a des limites.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir sur la Switch avant que ce soit sa fin de vie maintenant? On va dire qu'elle est... Voilà, elle a passé l'enfance, elle est à l'adolescence. Une adolescence, ça va. C'est pas une adolescence difficile, elle a mué un
comme
petit
Galaxis.
Peu.
Comme Galaxis.
Bonjour.
Elle a un petit peu des boutons, mais ça va. elle gère. Est-ce que vous avez une projection vous disant oui, dans 4 ans, elle sera toujours là? Ou est-ce que vous dites non, Nintendo va la tuer vers 4 ans, 4 ans et demi pour sortir une Switch 2 qui va embrayer sur le truc? Il y a des rumeurs de Switch Mini depuis un moment, il y a des choses comme ça. Est-ce que vous voyez ce genre de choses-là se réaliser dans les 2 ou 3 ans à venir ou pas du tout?
Alors, pour faire mon travail de journaliste avec brio, total, comme à chaque fois, voilà, je suis allé voir les vidéos de Julien Chiez.
Oh, putain,
ah, c'est bon.
Il a quelque chose à nous dire, écoutons-le.
Et du coup, voilà, cet homme avait prédit depuis déjà de longs mois, voire de longues années, qu'une Switch Mini était en préparation, une Switch plus puissante, avec toujours un écran LCD, mais qui serait plus brillant, et de meilleure qualité, et surtout, une meilleure batterie. Alors tout ça est bien sûr possible, et je ne vois pas en quoi Julien Chiez et Nostradamus, parce que de toute façon, il a rien inventé, hein, tout le monde le sait. Si tu passes par là, coucou.
En fait, il a lu le Nikkei, journal de référence des marchés du Japon.
Et il a vu qu'il y avait une baisse de prix sur les écrans LCD, il s'est dit « Oh là là là, c'est l'occasion à saisir !» En soi, bah, c'est un peu ce qu'on dit en général. Je vois mal, personnellement, hein, mais j'ai pas la science infuse, je préfère le dire dès maintenant. Je vois mal une Switch sur laquelle les manettes ne seraient pas démontables et qui serait uniquement portable.
Ouais,
je vois pas trop l'intérêt.
Ça me paraît tuer une partie du concept, d'avoir deux manettes en permanence avec
tout le monde est saucé pour ça. Je comprends pas, genre, c'est genre tellement à l'encontre du principe de la Switch.
Mais surtout que plus on avance, plus il y a les jeux mobiles qui prennent de l'ampleur, et avoir une console qui est uniquement mobile, ça me semble maintenant trop tard. Et même pour la qualité Nintendo, hein, c'est dommage, mais bon, voilà.
Il y a un cas où ça pourrait paraître justifiable. Après, je pense que Mortal me corrigera peu de temps après, mais c'est pour les enfants, on connaît leur tendance à prendre soin de ce genre d'objets technologiques. On l'a vu, en tout cas après 2 ans d'utilisation, moi je me rends compte que mon Joy-Con gauche commence un petit peu à déconner au niveau de la connexion.
Ouais,
au niveau de la connexion, des fois ça se désactive pendant que je joue dans le métro. Donc, étant donné qu'il y a un jeu à destination des enfants qui s'appelle Pokémon Épée et Bouclier, qui sort à la fin de l'année, moi ça me paraît pas déconnant. Mais après, comme on l'a dit, ça va à l'encontre du concept de la Switch, d'autant que ça veut dire que tu ne pourras pas utiliser les manettes qu'on te fournit avec la console, qu'elles ne seront pas détachables quand tu la mettras sur la télé.
Bah, moi ça me paraît assez contradictoire. Maintenant, je suis d'accord sur un truc, c'est que... Alors, je pense pas que ce soit particulièrement un problème avec les enfants, je préfère le dire, mais la qualité de fabrication, notamment des sticks des Joy-Con, est quand même... Moi, honnêtement, s'il devait y avoir révision... Voilà, c'est ça. S'il devait y avoir une seule révision d'un truc, j'aimerais bien avoir des Joy-Con un poil plus solides.
Ouais, parce que c'est... J'ai renvoyé... Alors, Café du Commerce, j'ai renvoyé quand même, Mobile Mission, j'ai renvoyé mes 2 Joy-Con droits au bout d'un an, et là, les 2 gauches commencent à déconner.
Putain.
Sachant que là, c'est genre 90€ une paire de Joy-Con. Enfin, 90€, c'est quand même.
Dans le meilleur des cas, t'arrives à les faire à 60 quand tu tombes sur une promo, mais c'est vrai que c'est quand même. C'est quand même très très cher. Moi personnellement, j'ai renvoyé mon Joy-Con gauche en SAV une première fois. J'ai dû envoyer les deux Joy-Con gauche que j'avais sont partis en SAV. Et j'ai fini par changer moi-même les sticks. Alors un Joy-Con gauche, un Joy-Con droit. Mais voilà, j'ai fini par changer moi-même les sticks. J'ai commandé deux sticks parce que les miens étaient baisés et que j'avais pas du tout envie. De racheter de Joy-Con, je trouve ça hyper hyper cher quoi. Donc, mais voilà, je serais prêt par contre à réinvestir dans une paire de Joy-Con, les Joy-Con 2.0 sur lequel il y aurait un peu moins de merde. Et c'est vrai que la seule révision matérielle qui m'intéresserait personnellement, c'est celle-là.
Oui, et puis il y a plus qu'à se balader sur Reddit, il y a des milliards de trades. Oh là, mon Joy-Con, il fait nawak, machin.
Non, mais c'est ça. Il y en a des dizaines, et je pense que c'est un vrai problème. C'est un vrai vrai problème. Il faut vraiment arriver à résoudre ça. Moi, honnêtement, c'est la seule révision que je vois. Après, un modèle plus compact avec une plus grosse batterie, avec plus de stockage interne. Il y a des gens qui ont démonté la Switch qui disent, bah de toute façon le stockage de la Switch il est sur une carte à part, donc c'est certain qu'à un moment il y aura un modèle 64Go, voire un modèle 128Go. Oui, c'est évident qu'à un moment ça finira par arriver. Maintenant, c'est pas une révision majeure. Si t'as une Switch 64Go qui remplace la standard 32Go, bah ce sera juste la new Switch et puis c'est tout quoi. Bref.
Ouais.
Donc l'avenir est plutôt brillant.
Ah, moi j'ai une question.
Mais vas-y.
Est-ce que vous pensez qu'un modèle plus puissant on fait comme la PS4 Pro ou la Xbox One X où on se base sur le cycle de vie des smartphones, c'est faisable?
Pour moi c'est juste un coup à embrouiller le grand public.
Totalement. Genre
quelqu'un qui débarque dans un Micromania, quelqu'un vraiment... Tes parents débarquent dans un Micromania, ils cherchent, je prends un exemple, une Xbox, ils voient 5 modèles différents du merdier, ils sont paumés quoi.
Surtout, genre, quelle plus-value réelle ça aurait, parce que au final, c'est ce qu'on disait avant sorti la PS4 Pro, avant qu'on puisse vraiment voir ce que ça donne. On se disait soit l'écart va vraiment être grand, et du coup, il y a des jeux qui vont être exclusifs PS4 Pro, et qui vont mettre de côté les premiers acheteurs. Et dans ce cas-là, ça va faire une nouvelle Wii U, ça sert à rien, genre, ils auront vraiment sabré ceux qui les ont soutenus. Soit l'écart est pas significatif, et dans ce cas-là, l'intérêt de passer à la gamme au-dessus est assez faible, et du coup, je trouve ça très intéressant.
C'est un public de niche, mais c'est à peu près tout, quoi.
C'est ça, à moins d'avoir des vraies fonctionnalités en plus, comme une DSi par exemple, où t'avais des petites choses en plus, la seule puissance, c'est pas un argument justifiant l'achat à mes yeux.
Bah, c'est compliqué. Le truc, c'est que je sais plus quel institut américain a fait un sondage, machin, et en gros, c'était vous utilisez votre Switch majoritairement en mobile ou en docké, en gros, et le résultat, c'était 50-50.
Ouais, ok.
Mais vraiment, enfin, c'est effrayant, quoi. C'est-à-dire que les gens ont vraiment... L'hybridité, elle marche, quoi. Il n'y a pas de problème. Les gens ont vraiment compris le concept du... je peux y jouer dans mon canapé tranquille, vautré, et je peux aussi le mettre sur ma télé dès que Bobonne, elle a fini de regarder la roue de la fortune. Je suis désolé pour la roue de la fortune. Non, mais voilà, tu vois le truc. Je pense que le concept de la console hybride, les gens ont bien saisi l'intérêt.
Ah, mais tu vois, chez moi, c'est top, quoi. On en a deux à la maison, là, et... Tu en as un qui joue sur son écran sur la télé, de temps en temps on switch le truc, lol. Et non, on s'éclate.
Ah, j'ai compris, pardon.
Non, mais j'avais vu un exemple d'un mec sur Reddit qui disait, mais en fait, mon meilleur pote, il a une Xbox One, une Xenoxobix. Il a une Xbox One X, et il joue à Fortnite, je joue à Fortnite sur ma Switch, du coup on peut jouer tous les deux sur le même canapé. Avoir le même genre d'expérience de jeu, sauf que lui joue sur sa télé, moi je joue sur ma console, et c'est top. Et je veux dire, effectivement, c'est le genre de truc, c'est des expériences qui n'existaient pas avant. Et je pense que c'est créer des nouvelles expériences, ça fait aussi partie de ça. Bref, on va passer au sujet suivant, puisque nous avons malheureusement beaucoup de sujets à voir.
On peut faire une minute de silence avant pour la fin de production de la PS Vita?
Non, je ne préférerais pas. On a déjà fait beaucoup de minutes de silence, il y a deux émissions. Donc...
Hop là.
Le revoit là.
Excusez-moi. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Alors donc il y a beaucoup de jeux très 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 intéressants qui sortent en physique régulièrement chez Limited Run Games, chez Super Rare Games. Mais il y a d'autres gens qui font des choses. Il y a Strictly Limited Games qui a sorti son premier jeu Switch il y a quelques mois.
Putain, c'était
bon. Il y a Special Reserve Game qui a sorti son premier jeu Switch, enfin qui va sortir son premier jeu Switch dans quelques jours. C'est The Messenger. c'est une espèce de suite spirituelle de Ninja Gaiden. Il y a Hollow Knight qui vient de sortir en précommande chez Fangamer. Bref, maintenant des sociétés qui produisent des jeux en version, des jeux indés en version limitée ou en précommande ou je sais pas quoi sur Switch, il commence à y en avoir un sacré paquet.
Mais que fait Capcom ?
Mais que voilà, la vraie question c'est comment se fait-il que Capcom soit incapable de faire ça ?
Et bah ils sortent des compiles de Street Fighter 2.
Oui, mais pas en physique.
Bah si, pour le coup.
Si.
Ah, celle-là est sortie en physique, mais parce que c'était facile. Ils ont pas été foutus de mettre Resident Evil 0 et 1 sur la même cartouche.
Mm.
Qu'on m'explique. Square Enix arrive à mettre Final Fantasy X et X2 sur la même cartouche au Japon, mais pas en Europe.
Mm-hmm.
Qu'on m'explique.
Bah, non, de toute façon, X2, il est à chier.
Ah mais je sais pas, moi je suis...
Il est dispensable, oui.
Il est dispensable. Non mais c'est vrai que moi Final Fantasy c'est dispensable par défaut, donc y'a pas de souci.
Oh.
Mais voilà, c'est rigolo parce qu'il y a des jeux comme Velocity 2X, The Messenger, Hollow Knight, Celeste... qu'est-ce qui sort? Je crois que c'est...
Des petits trucs, R-Type.
Beaucoup trop cuit.
Beaucoup trop cuit.
Ah oui.
Quoi?
Le 2, le 2.
Overcooked.
Oui non mais Overcooked il est sorti en vrai dans les magasins, là c'est vraiment de la... De la préco un peu spéciale. Enfin bref, je trouve qu'il y a un foisonnement extraordinaire de jeux qui sortent un peu partout. C'était Raiden qui a fini par sortir en physique. Il y a Faerûné Collection qui sort demain chez Super Rare Games. Il y a Limited Run Games qui sort. Ah merde, j'ai plus le nom en tête. Ah si, c'est Bloodstained.
Oui, Bloodstained.
Curse of the Moon, vendredi. The Escapist qui effectivement est sorti il y a quelques semaines, Windjammers, Shantae de Pirate Curse, bref, il y a un foisonnement gigantesque avec il y a au moins 5, 6, 7 éditeurs qui se sont spécialisés. Alors il y en a certains, ils font que de la Switch, il y en a, ils font un peu de tout et ils arrivent à choper des jeux Switch de temps en temps. Est-ce que vous pensez qu'ils vont finir par tous se vampiriser entre eux et que plus personne va rien y comprendre ?
Ce que j'ai vu,
c'est quand même de plus en plus difficile à suivre. Même quand t'es un peu passionné, quoi.
Alors, à suivre, c'est une horreur, oui. Là où ils sont encore pas trop vampirisés les uns les autres, c'est qu'ils ont pas de titre cross éditeur.
Oui, ils ont pas. T'as pas Velocity 2X chez Limited Run et chez.
Et chez machin avec une jaquette différente, rachète-le, tu vois.
Ouais, mais c'est quand même un peu inquiétant parce que.
Ça commence à faire du monde, oui.
Ça commence à faire du monde et je me dis qu'ils vont peut-être pas tous survivre, quoi. Enfin, à un moment.
Dépendra les titres, ouais. Limited Run, pour moi, ils sont bien partis pour être un poids lourd du truc.
Sachant qu'ils sortent, quand même beau. Enfin, ils font quand même beaucoup de remplissage, hein, pour être honnête.
Oui, non, c'est vrai. Mais ils en sortent un toutes les deux semaines. Si vous les commandez, commandez-les par deux. Signature, eux, ils font des éditions qui déboîtent.
Mais c'est surtout les éditions limitées parce qu'en fait, ils sortent les jeux en magasin derrière. C'était le cas de Dead Cells.
Mm.
Mais par contre, ils ont une édition collector hyper limitée avec plein de goodies dedans qui ne sort que chez eux.
Mm.
Donc c'est encore un petit peu différent parce que tu peux trouver dans un Micromafia ou dans une Fnac, tu peux trouver des jeux Signature Games.
Qui c'est qu'on aurait
d'autres ? Y a les Allemands de Strictly Limited Games qui ont sorti leur premier jeu Switch il y a 2-3 mois qui s'appelle Fox and Forest. Ils ont sorti Super R-Type il y a une semaine, Velocity 2X il y a un mois, et en fait les mecs avaient dit sur leur, je crois que c'est sur leur compte Twitter, ils disaient en fait ça marche tellement bien qu'on va arrêter de faire des jeux PS4 quoi.
Oh putain.
Donc c'est quand même inquiétant. Voilà, et puis t'as des jeux comme Super Rare Games, enfin Shelter Generations, que moi j'avais acheté chez Super Rare Games et que j'ai pas déballé. Les copies déballées se vendent aujourd'hui à pratiquement 200€ sur eBay.
Oh t'enculé.
Donc c'est la folie quoi.
Oh putain.
C'est un truc de malade, alors que moi, j'étais content que Super Rare Games sorte des jeux, tu vois, j'étais content parce que je les avais en physique et ça me faisait plaisir, et c'est tout.
Et on peut se les prêter.
On peut se les prêter, et c'est cool, et il y a des fois des jolis artworks, et puis des fois il y a des goodies dedans.
Oui,
des
non,
goodies,
parce que
c'est bien.
Le prêt de jeux dématérialisé, on en reparlera un jour, hein.
Mais va falloir que ça vienne,
bordel.
À un moment.
C'est faisable, mais qu'est-ce que c'est compliqué.
C'est faisable sur Switch.
Ouais, c'est faisable. Faut déclarer un compte sur ta console esclave en compte secondaire. La
esclave.
Deuxième console ne peut y jouer que quand elle est connectée à Internet. Et si toi tu lances une partie, ça lui baise la sienne. Enfin, c'est une horreur.
Le jeu physique a de beaux jours devant lui, donc.
Oui.
Est-ce que vous voyez quelques-unes de ces compagnies ? Alors, je pense que Limited Run, effectivement, ça va être compliqué de les détrôner finalement, ça a été les premiers, c'est un peu des pionniers dans ce domaine-là de toute façon, puisqu'ils font ça depuis 3-4 ans maintenant. Et puis c'est aujourd'hui les seuls qui sortent des jeux PS Vita.
C'est vrai. Ils en ont sorti plus que Sony, oui.
Ils en ont sorti plus que Sony, oui.
Bah, c'est possible ça.
Ils en sont une grosse centaine, hein, je crois. Hein. C'est, mmh. C'est quand même conséquent. Super Rare Games, je les vois bien continuer aussi. Il y en a d'autres, je sais pas trop quoi. Special Reserve Games, ça a l'air d'être des mecs qui font ça un peu...
Dans le garage.
Un peu dans le garage. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup à faire ça dans le garage. Quand tu regardes Super Rare, ils sont genre 3.
Ouais.
Donc ça doit être un peu compliqué. Mais...
Après, en même temps, c'est que de la distribution et du packaging. Il n'y a pas besoin non plus d'être des milliers, quoi.
Non, clairement. C'est aussi peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a autant de gens qui se sont lancés là-dedans. J'ai l'impression que Nintendo a vraiment abaissé considérablement ses exigences pour qu'on puisse sortir des jeux physiques.
C'est quoi chez Limited ? Ils annoncent que c'est donc ça marche par précommande. Ils lancent la préco auprès des fournisseurs de cartouches, j'imagine, à partir d'une certaine date. Et ils annoncent que le truc est arrondi à
1000 unités
au millier près.
Voilà. C'est ça, au millier près.
Donc tu te mets pas une paille pas possible si jamais. Enfin, tu ne perds pas trop de sous dans l'affaire. Quoi.
Clairement, Limited, ils sont alors. En termes de stratégie, c'est vrai qu'il y a les fonctionnements sont un petit peu différents. Strictly Limited Games et Super Rare Games font un nombre fixe d'exemplaires. Mm-hmm. Ce qui fait que Super Rare Games, il y en a quelques-uns qui ont eu énormément de mal à écouler apparemment. Parce okay. qu'il y a des releases qui étaient peut-être un peu moins attendues que d'autres. Donc il y a des trucs comme Shelter Generation dont je parlais tout à l'heure, c'était 2500 exemplaires. Donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Et je crois que c'est N++ Ultimate où il y avait 4000 ou 5000 exemplaires et ils sont pas tous écoulés encore. Okay. Alors que le jeu est sorti il y a 3-4 mois.
Ouais, après N++, c'est un jeu qui est quand même relativement vieux.
C'est un peu ça aussi.
Alors, on a JBC qui nous dit que ce qui peut éventuellement les tuer, c'est les coûts de frais de port.
Alors, les frais de port, faut vraiment les grouper.
Ouais.
Mais c'est à peu près tout. Mais Limited Run, moi, ce qui me gonfle, c'est surtout qu'effectivement, ils sortent 50 trucs par an. Enfin, sur la première année, ils ont sorti 25 ou 26 jeux Switch. Quoi.
Ah bah c'est maintenant, c'est un toutes les deux semaines. Donc, c'est une fois que tu le sais, une fois que tu le sais, tu te fais une commande par mois en groupant avec la sortie de il y a 15 jours.
C'est ça.
Et ça
parce
passe.
Qu'en fait, elle tombe toujours comme ça. L'idée de Limited Run, c'est les précommandes sont disponibles à partir du vendredi à 10h heure française. Et en fait, elle se termine le vendredi deux semaines plus tard, vers 16h, au millier près. C'est-à-dire qu'ils disent, on arrêtera quand on aura à peu près, quand on aura atteint un nombre rond de 1000 commandes avant 16h.
Ah, tu l'as compris comme ça ? D'accord. J'ai compris qu'ils arrondissaient à 1000 au-dessus et que le petit stack qui leur reste, ils faisaient des OP plus tard.
Ah non.
Ok.
Ah non, c'est des connards.
D'accord, ok.
Du coup, c'est vrai qu'eux, ils prennent pas un très gros risque dans le sens où ils font que de la préco, alors que les Special Reserve Games... Je crois que Fangamer pour Hollow Knight fait aussi de la préco. J'ai pas vu de nombre limité, c'est vraiment... S'il y a 15 000 joueurs qui commandent, bah très bien, il y a 15 000 joueurs qui commandent, ils produisent 15 000 cartouches et puis c'est réglé.
D'accord.
Côté Limited Run, c'est pareil, puisque apparemment, la toute première release qui était...
Thimbleweed Park.
Ils en ont fait... Alors, ils donnent jamais les vrais chiffres. Mais la rumeur veut qu'il y en ait à peu près 13 000 exemplaires. Ce qui est quand même une grosse release pour Limited Run, puisqu'ils sont plus habitués à des runs de type 5-6 000 exemplaires maximum sur du jeu PS4. Quoi.
Mais Thimbletweed Park, je ne sais pas.
Allô ?
Pardon ? Oui ?
Il a fait pas mal de bruit, il me semble. Ça doit être pour ça, non ?
Vu les mecs qui étaient derrière, oui.
C'est le mec qui a fait Maniac Mansion, je crois, non ?
Oui, c'est ça. Oui.
Ah oui, c'est toute la clique de LucasArts, donc oui.
D'ailleurs, on lui reproche d'être très conservateur dans ses mécaniques de jeu.
Mais c'est ça qui était bon, petit trip rétro.
C'est Thimbleweed Park, clairement, c'est un trip rétro.
Mais du coup, si les jeux indés sont voués à quasiment tous, en tout cas les plus gros hits...
Les bons, on va dire.
À sortir en physique, qu'est-ce qui délimite les jeux indés des jeux de studio ?
Ça commence à être très compliqué.
Ça devient très très flou.
C'est pas une question de distribution.
Vu que finalement, à la base, jeu indé, c'était auto-distribué. on voit qu'il y a des labels indés.
C'est auto-édité plutôt, je pense.
Auto-édité, oui, c'est ça. Pardon.
Effectivement, oui, mais les labels, pour moi, sont plus une zone de flou que les distributeurs.
Justement, auto-distribué dans le sens où c'était quand dématérialisé jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui déterminait encore, même un jeu qui était sorti chez Devolver, on considérait plus ou moins qu'il était indé. Parce que ces écrans dématérialisés, ça restait
indé,
dans...
Indé, c'est pas la production du jeu. Pour moi, indé, c'est plutôt le studio de 10 personnes maximum, qui effectivement...
Le process de développement et l'édition.
C'est plus le process de développement que l'édition, finalement. Si Fangamer a réussi à récupérer Hollow Knight, il est quand même produit par Cherry, qui est 5 connards en Australie. Hein.
Tiens, est-ce que Fae est un jeu indé ? C'est le truc édité par Electronic Arts.
Compliqué.
Quel jeu ?
Fae.
Ah, c'est édité par Electronic Arts.
Donc c'est
ouais,
pas
mais alors du coup, est-ce que c'est un, mais, ouais, est-ce mais... que c'est un studio indépendant qui le développe?
Alors, est-ce qu'un studio indé, ce serait un studio qui bosse sans avoir une commande?
Oui. Pour moi, est-ce que c'est ça, pas là, là, justement, est-ce que c'est peut-être pas là, là du coup, la définition de l'indé?
Parce que sinon, c'est juste des petits studios. Hein.
Des jeux d'auteur.
Oui, aussi, oui, l'appartenance.
Ouais, mais finalement, regarde, comment il s'appelle, le Dead Cells. Est-ce que tu considères ça comme un petit studio?
Bah, je sais pas, est-ce que c'est un jeu indé?
Ils sont une quinzaine à Lyon.
Ben,
il me semble.
C'est
est-ce comme... que tu. D'un autre côté, il a quand même une image.
Est-ce que c'est une commande? C'est toujours pareil. Est-ce que c'est, non, une, c'est pas une commande. Commande ou un appel d'offre d'un éditeur pour faire le jeu?
Non,
ou
non,
est-ce que
est...
c'est de leur propre initiative? Ils ont fait ça et il y a parmi les 15, il y a un connard qui s'est fait chier pendant des mois pour trouver un éditeur.
Il me semble pas qu'il.
Putain, attends, ça voudrait dire que Smash Bros. Le premier, c'était un jeu indé?
Non, parce que c'est pas la même époque.
Ah!
Mais voilà, enfin, c'est pour
je
ça que.
Je rappelle que dans les années 90, là, c'est ce que disait Ed Boon, le producteur de Mortal Kombat 11. Oh putain, mm-hmm. Mortal Kombat 11.
Déjà.
Le producteur de Mortal Kombat 11 qui disait, bah voilà, au départ, Mortal Kombat le premier, la version arcade, on était 4, on était dans un garage. Mm. Alors c'était une commande. C'est-à-dire que c'était pas un studio indépendant, c'était vraiment des salariés de chez. Alors je sais plus si c'est Acclaim ou Midway, je sais plus, je sais jamais, parce que c'est. C'est au moment où il y avait la fusion avec Belly et tout ça, donc c'est un peu compliqué, mais c'était 4 salariés de Acclaim ou Midway, qui étaient le studio, qui s'appelait pas d'ailleurs NetherRealm ou je sais pas quoi, c'était Acclaim Studio, je sais plus quoi. Mais ils étaient pas indépendants du tout, c'était des salariés, ils étaient 4. Mortal Kombat 2, ils étaient 7. Mortal Kombat 3, ils étaient 15. Et Mortal Kombat 4, ils étaient une vingtaine. Et il a dit, voilà, aujourd'hui, Mortal Kombat 11, c'est 200 personnes.
Ok.
Donc c'est pas, voilà, c'est pas tout à fait la même chose quand même.
Payer les 200 personnes.
Pardon ?
Tous payer les 200 personnes. Ah oui, voilà, Paul, oui, pardon, excuse-moi. Petit erratum, merci Paul. Dead Cells, oui, c'est à Bordeaux. Bah, c'est pas à Lyon, c'est ouais, la merci. Ville de Juppé, voilà.
Mais je ne saurais pas dire où est la limite, c'est vrai que c'est de plus en plus flou, et je pense qu'il y en a qui entretiennent volontairement le flou pour éviter ouais. que... Mais pour ouais, moi, la différence, ouais, ouais. c'est surtout les petites productions... Et les très grosses productions. Ce qui est dommage, c'est que les moyennes productions n'existent quasiment plus. Enfin, j'ai déjà déploré il y a longtemps une espèce de polarisation du marché sur lequel t'as des tout petits jeux.
Ouais.
Pas forcément petits par leur qualité, hein, petits par leurs moyens de production, mais qui ont parfois de grandes idées. C'est beau. Et puis tu as les gros triple A, mais c'est vrai que les jeux qui sont un peu au milieu de la route.
Au milieu, t'as Hellblade.
C'est un peu
et
ça.
Et c'est tout.
The Witness.
Bah, t'as pas grand chose. Mais je pensais The Witness, à Darksiders 3, qui a pas un budget de folie. Tu regardes le budget de production du jeu, la quantité de gens qui travaillent dessus, c'est pas fou quoi. C'est pas un studio indé. Il y a plus de 70 personnes qui travaillent dessus.
Ouais, t'as tout. Mais c'est pas Nier qui est un double A à la base.
Ouais, non mais c'est ça.
Je sais pas si Nier Automata peut être considéré comme un triple A, mais
je ne sais pas.
Je pense pas qu'il ait le mais budget d'un Call of Duty. Hein.
Ah non mais après tous les jeux AAA ont pas le budget de Call of Duty non plus.
Pour le coup, Nier Automata, pour l'avoir fait, ça reste un jeu avec des moyens modestes. Hein.
Oui, ça c'est sûr.
Les environnements restent relativement restreints et tu retournes souvent aux mêmes endroits.
Mais ça n'empêche pas d'être bien.
Voilà, c'est ça. Mais ça reste un très bon jeu. Mais en fait, les jeux moyens, tu vas plus les trouver au Japon maintenant, je pense. Et ça va être des jeux indés avec beaucoup de budget comme The Witness ou Hellblade, puisqu'à l'époque c'était un jeu indépendant. Un studio indépendant Ninja Theory à la base.
Ouais, avant de se faire racheter par Microsoft.
C'est ça. Mais ça va exister des jeux qui ont l'air d'avoir des moyens, mais. Enfin, soit qui vont avoir des. Qui vont donner l'impression qu'ils ont des moyens avec une technique assez réussie, ou un contenu assez gros, et. Mais qui vont être des studios indépendants. Je pense que ça va plus aller vers ça maintenant que t'as des indépendants qui commencent à avoir pas mal de budget, quoi.
Bah après, oui, ça, en même temps, c'est un peu logique aussi, quoi. C'est un peu normal aussi. Quand tu vois le succès de certains jeux indépendants, moi je me dis, je mettrais les pépettes là-dessus plutôt. Hein. Parce que finalement, t'as des moyens de production relativement réduits, mais t'as une possibilité de gain assez importante si t'as un concept qui est bon et qui tient la route sur une durée suffisante.
Moi je trouve que Hollow Knight, au vu de la qualité, la quantité du jeu et du travail qu'il y a eu dessus, on n'est pas loin d'un jeu de moyenne envergure. Enfin, je trouve que ça reste quand même dans le haut des jeux indépendants.
C'est ça, sa DA le fait passer pour un truc indé. Quoi.
Mais même sa DA, son contenu, à quel point en fait, je trouve qu'il est précis dans toutes ses mécaniques, bien fini aussi. Enfin, j'ai pas vu énormément de bugs majeurs. Il y a quand même un travail de qualité et je trouve que moi, on se retrouve vers plus ce modèle de jeu moyen, enfin moyen budget. entre de l'indépendant pur jus et du triple A, quoi. C'est, ça reste, un, moi, je trouve, un très bon travail, quoi. Et plutôt, plutôt bien pensé.
Yoshiru qui dit jeu indé égale gros pixel. Putain, les pichetons, quoi. Bien joué. Bref,
yeah, on ouais, va marquer physique,
une petite pause musicale avant de parler de Valkyria Chronicles 4, et je pense qu'on va faire sauter un des derniers sujets si on veut être à peu près dans les temps. C'est pas grave, je sais déjà lequel. Nous allons nous écouter donc un petit morceau de la bande originale d'un jeu indé peu connu. Non, je déconne. C'est un jeu Capcom qui est...
Il est sorti en physique ou pas ?
Demon's Crest, bah oui.
Ah !
Quand même, sur Super Nintendo.
Putain, du coup, t'as spoilé le... Pardon.
Bah oui, quand même, sur Super Nintendo. C'est l'époque où Capcom sortait des vrais jeux sur des vraies consoles, avec des vrais moyens de production... Et pas voilà, et essayez pas d'arnaquer les gens. Alors en l'occurrence, Demon's Crest, il a eu un destin un petit peu particulier puisque il a pas tellement marché. Alors d'abord à cause de son nom, puisque c'est Gargoyle's Quest 3, mais il s'est jamais appelé Gargoyle's Quest 3. Il s'appelle Demon's Blazon au Japon, qui est en fait la suite logique de Demon's Darkness, qui est Gargoyle's Quest au Japon.
Ça, c'est compliqué. Alors, la timeline Ghost and Goblins.
Ah ouais, non, c'est très compliqué, mais ça Demon's Crest est très voilà, c'est ça. Alors où est-ce qu'on le met dans la timeline, celui-là? Et donc, si le héros du temps a... Non, attendez.
C'est couré de série.
Merde. Voilà, donc Demon's Crest, c'est un jeu... C'est un jeu qui a pas eu un gros succès, qui s'est un petit peu fait descendre à sa sortie, parce qu'il est extrêmement court. Et en fait, effectivement, on peut arriver à bout du jeu en 2h30, 3h, ce qui fait quand même pas très long. Enfin, sur Super NES, c'est quand même compliqué. Voilà. Mais le jeu a une DA de malade. Il y a un sprite work qui est complètement gueudin, une ambiance qui est ouf, notamment musicale, et je voulais vous faire profiter de ce magnifique morceau qui s'appelle Metropolis of Ruin, pardon,
qui est Tagum, le chat. Je crois que le chat essaie de le prendre
en fait. Je crois qu'il le prend mal. qui est donc sur la BO de Demon's Crest sur Super Nintendo. Voilà, je vous... Si vous devez y jouer, essayez sur émulateur, parce que je vous garantis que la cartouche coûte une couille.
T'as oublié un détail quand même sur la série, c'est que tu joues un méchant de Ghost and Goblins.
Tout à fait. Le Red Harrymer. Mais en fait, la série Gargoyle's Quest est vraiment intéressante parce que c'est plus cohérent que Ghost and Goblins, en fait. Quand tu regardes l'histoire de Ghost and Goblins, c'est le bordel. Alors que Gargoyle's Quest, c'est vraiment des jeux qui se suivent avec une histoire qui se suit vraiment d'un jeu à l'autre. Bref. Donc on s'écoute ça, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Yes.
Une Michel. Fois. Donc JBC, excellente remarque. Est-ce qu'on doit tuer deux fois le gentil de Ghost and Goblins pour finir Gargoyle's Quest? A priori, non. Gargoyle's Quest, ça se passe dans le monde des gargouilles, alors que Ghost and Goblins, ça se passe dans le monde des humains qui est envahi par le monde des gargouilles.
Mais quel enculé, pardon. Il a raté le...
Oh, il a banni le truc. Okay.
Non, je l'ai banni 120 secondes.
On s'excuse, JBC, je suis désolé.
Excuse-nous.
Galaxy, s'il est jeune, il a peur de se sentir menacé.
Il se sent menacé dans son amour propre. Bref, on va parler un petit peu de Valkyria Chronicles 4, puisque Antix l'a poncé, enfin, il l'a fini en tout cas.
Non, j'en suis à la dernière mission, et je me la garde pour ce week-end.
Fini.
Non, mais j'y ai ce jeu pour pouvoir vous raconter de quoi ça parle.
Oui.
Donc, voilà, vas-y.
Donc on va parler guerre, mes amis. On va parler jeu de stratégie au tour par tour. On va parler de Valkyria Chronicle, qui est une série actuellement de 4 épisodes et plus un spin-off merdique, édité par Sega et réalisé par, alors pour le premier en tout cas, et je suis pas sûr pour les autres, l'équipe de Skies of Arcadia.
au point que les héros de Skies of Arcadia faisaient un caméo dans le premier Valkyria Chronicle en tant que personnage jouable, sauf la blondasse qui était infirmière.
C'est pas jouable une infirmière ?
Bah pas dans
ah
ce
non,
cas-là.
Les infirmières, que... elles sont pas sur le terrain.
Oui. Dans ce cas-là, les infirmières, elles viennent sauver les gens morts. Et du coup, c'est une série stratégique qui a commencé en 2008-2009 de mémoire sur PlayStation 3, qui s'est pas du tout vendue à l'époque, d'ailleurs. Qui a eu donc des suites sur PSP à cause de ça. La première est sortie en Europe, la dernière est restée au Japon. Donc, une série qui, on peut dire, a commencé avec un épisode très apprécié, puis qui a disparu. Qui est finalement ressorti sur Steam en Occident, et en fait, c'est ça qui a fait que la série a repris un petit peu de. A commencé à avoir un petit succès commercial, puisque la version PC s'est plutôt bien vendue. Sega, très malin, a décidé de mettre en chantier Valkyria Azure Revolution, un spin-off merdique. Donc, comme je le dis, qui n'est même pas du tactical RPG, mais un action RPG. Voyant que ça n'avait pas du tout marché, ils ont décidé de sortir un quatrième épisode, qui est sorti sur toutes les consoles possibles et imaginables, tant que ça affiche de la 3D de manière à peu près correcte. Donc, Xbox, PS4 et Switch. Et PC. Ah, peut-être pas sur Xbox, du coup. Bref.
Si, je crois qu'il est sur Xbox, hein.
Voilà.
Je l'ai vu, me semble-t-il.
Et donc, la série Valkyrie Chronicle, de quoi ça parle ? C'est un série tactical RPG, donc ça se passe essentiellement en temps de guerre, plus précisément sur le continent d'Europa, où la Fédération Atlantique et l'Empire se livrent la guerre, suivre une guerre sur le continent, donc c'est un peu une reprise de la Seconde Guerre mondiale façon japonaise. Et en fait, c'est ce contexte qui sert de scénario au global à tous les épisodes de la série. C'est juste que, en fait, selon l'épisode, on va pas forcément voir le même front. Dans le premier épisode, on allait à Gallia, qui était une espèce de pays neutre, mais qui était envahi par l'Empire, puisque c'est les grands méchants, l'Empire, je le rappelle. Nous sommes dans un RPG japonais.
Donc l'Empire, c'est toujours des méchants.
Voilà. Donc à l'époque, on devait repousser l'Empire de ce territoire. Dans ce quatrième épisode, on va jouer un escadron de la Fédération, qui est envoyé en mission suicide dans le territoire de l'Empire, puisqu'ils vont mener à bien l'opération Croix du Nord, qui consiste à rusher comme des bâtards jusqu'à la capitale pour faire capituler l'Empire le plus vite possible.
Alors, Yoshirio, c'est la Seconde Guerre mondiale, mais avec des waifus. C'est assez bâtard comme en arme, mais je suis complètement d'accord.
C'est pas loin de la vérité, hein. Parce que tu peux être parié par contre.
Yoshirio, tu repasses Modero deux fois.
Deux fois. Mais je crois que c'est genre la cinquième fois qu'il te Modero.
Hein. Ouais, non, mais c'est compliqué. Hein. Donc, oui, pardon, c'est l'opération Blitzkrieg, mais pas Blitzkrieg.
En fait, c'est Blitzkrieg, mais c'est pas les Allemands qui la font, c'est les Américains.
Voilà, et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à la capitale le plus vite possible, et donc tu enchaînes une série de missions entrecoupées. Un peu à façon Fire Emblem, finalement, c'est le tactical RPG avec des gros morceaux de novel, de visual novel au milieu.
C'est ça, en gros, entre chaque mission, t'as des cutscenes qui vont te raconter l'histoire de ce groupe, puisque il se trouve qu'en fait, les mecs sont, enfin une partie des mecs qui sont dans le groupe sont tous des amis d'enfance, par le plus grand des hasards, et vont forcément se farcir le gros de l'opération, puisque notre héros est un commandant de génie, hein, bien entendu, c'est ce qu'on découvrira tout au long de l'histoire.
Mais torturé par un passé trouble.
Pas tant que ça.
Et il y a aussi une prêtresse qui se trouve être la réincarnation d'une ancienne déesse. Attendez, non, ça c'est Final Fantasy, excusez-moi.
Bon, on n'est pas loin, ceci dit, puisque dans le monde de Valkyrie Chronicle, il y a des femmes qu'on appelle des Valkyria, hein, c'est basé sur les Valkyries, et qui globalement ont une espèce d'aura bleue autour d'elles et sont plus ou moins invincibles. Bon, il y en a une par épisode et il y en a une dans celle-là aussi, qu'on rencontre à peu près à la moitié du jeu pour la première fois. Évidemment, c'est toujours chez les méchants. Hein. Donc ça c'est un peu pour le contexte historique. En soi l'histoire elle est pas mal, ça reste quand même très japonais, donc il y a pas mal de niaiseries et de bons sentiments, mais à côté on a quand même des bons moments de bravoure. Là où j'en suis vers la fin du jeu, ça c'est un petit peu déprimant aussi, que forcément c'est là où il y a les moments les plus tragiques qui vont arriver, et du coup l'histoire se suit plutôt bien. Sachant que les personnages sont pas non plus trop chiants, l'indispensable gamine qui va débarquer à un moment dans l'histoire et qui m'a plus ou moins fait criser à ce moment-là parce que elle avait juste l'air chiante. Mais en tout cas, ça se suit plutôt bien.
C'est juste que ils ont. Alors, Valkyrie Chronicle a un système de gestion des cinématiques qui est assez particulier, puisque toute la représentation du jeu se fait dans un espèce de livre. Et en fait, faut activer, lancer les cinématiques une par une en cliquant sur les vignettes du livre. Quand on fait 5 d'affilée, c'est relou.
Oui, ça, j'ai remarqué aussi, c'est quand même pas. Ouais, c'était pas terrible, terrible.
C'était pas top dans le premier, et c'est toujours pas top dans le 4.
Après, c'est ce qui fait aussi un petit peu la personnalité du truc, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais il pourrait y avoir un bouton simplement pour les lancer en automatique les unes à la suite des autres. Parce
ouais,
que finalement...
c'est ça, jusqu'à ce que tu arrives au moment où il y a la carte du niveau qui s'affiche. Et là,
ou l'instant
coup,
clé, ou je sais pas quoi. Ouais,
ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour la partie histoire, ça marche plutôt bien. Après, la partie la plus intéressante du jeu, pour moi, ça reste la partie gameplay.
La bagarre.
Et donc, bah, comme je l'ai dit, c'était une représentation de la Seconde Guerre mondiale. C'est un tactical où tout le monde a des flingues. Il n'y a pas d'épée, il n'y a pas d'arc, il n'y a pas de hache. C'est pas Fire Emblem, c'est pas Final Fantasy Tactics. Mm-hmm. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, plutôt que de faire un truc en grille où tu déplaces tes mecs sur un damier, t'as le champ de bataille, c'est une map vue du dessus, genre map tactique avec des indications, là faut attaquer par là, là il y a des trucs qui bloquent. Et quand tu vas choisir de bouger tes personnages à part un selon les points d'action qu'on t'a attribués au début, donc t'as un lot de points d'action pour tous tes personnages, t'en fais ce que tu veux, tu peux faire bouger 4 fois le même perso, ou décider de faire bouger tout le monde, ça tu fais, c'est un peu toi qui choisis. Et quand tu choisis un personnage, en fait, tu passes d'une espèce de vue de déplacement à la troisième personne, où tu diriges directement ton personnage comme dans un jeu d'action.
Oui.
Donc tu vas pouvoir voir autour de toi... repérer où sont les ennemis et compagnie. Le jeu en profite d'ailleurs pas mal, puisqu'il y a possibilité d'utiliser certains événements comme du brouillard pour justement se cacher et être plus difficile à repérer.
Oui, puis t'as tout un élément de visée aussi, un petit peu comme dans un Codename Steam, où c'est pas parce que t'es bien placé que t'as fait ton déplacement et que tout ça, si tu vises comme une merde, bah c'est pour ton cul. Alors c'est la ça. Visée est pas très compliquée, parce que ça reste du tour par tour.
Oui,
est...
et puis bah, quand en fait quand tu te déplaces, les ennemis peuvent te tirer dessus. Mais
tout
par
à
contre,
fait.
Quand
peuvent tu réagir effectivement à ta présence.
Ce qui peut faire d'ailleurs partie des techniques pour se débarrasser rapidement des ennemis, parce que tu peux le faire aussi. Et surtout quand tu mets en joue, le temps s'arrête, c'est-à-dire que les mecs te regardent prendre le temps de viser, de leur viser bien la tête. Et ce qui est un peu forcément un petit peu déroutant, parce que c'est pas, tu t'attends pour un jeu qui mise quand même pas mal sur du temps réel, en tout cas au niveau des déplacements, c'est assez étrange. Mais ça permet de viser en prenant son temps tranquillement. Et évidemment, le jeu est pas trop mal pensé, puisque quand tu vises à la tête, tu fais des coups critiques. Par contre, forcément, quand tu vises à la tête, tu as plus de chances de mettre à côté.
De louper. Yep.
Oui, voilà, c'est ce qui faisait un peu le sel du jeu aussi par rapport à un... Alors, Codename Steam, par exemple, que je citais tout à l'heure, qui est aussi un tactical 3D et tout ça, jouait beaucoup sur la verticalité des décors et tout ça. Là, c'est beaucoup moins le cas, en tout cas dans la partie que j'ai faite. Je sais pas si ça s'améliore après, ou si on en profite après, parce que j'ai vu qu'il y avait un niveau avec un château et tout ça, dans lequel ça commençait un petit peu à arriver, mais... Ça reste quand même très terre à terre, j'ai l'impression.
Pas énormément, parce que bon, ça reste un moteur maison qu'ils utilisent. Il y a pas mal de soucis de collision, et notamment la verticalité. Et là, je trouve pas spécialement bien géré. Il y a quand même moyen d'aller genre sur des tours pour pouvoir voir de loin, monter sur un niveau supérieur dans, par exemple, un château ou une base ennemie. Mais c'est vrai que la verticalité est pas vraiment, je trouve, utilisée au niveau du jeu. Ils sont plus un système de couverture en fait pour tout ce qui est cacher ses personnages et ce genre de choses. Mais par contre, alors je parlais un petit peu du premier qui était une espèce de prototype. Dans cet épisode, ils ont rajouté énormément de choses qui améliorent beaucoup, notamment toute la partie déplacement, puisqu'on va avoir un véhicule de transport de troupes blindées, et ça permet de passer des zones avec pas mal de personnes un petit peu agressives. Donc c'est vachement pratique quand tu vas déplacer tes troupes. Et il y a aussi une unité maintenant que c'est le grenadier, donc qui n'était pas présent avant, qui permet de choper des ennemis en cloche. Et notamment les quelques fois où des ennemis un petit peu placés en hauteur, ben, plutôt que d'essayer de les avoir au sniper ou de monter derrière eux, ben, on peut tirer une grenade avec son mortier et les tuer depuis leur tour. Donc ça, c'est des trucs qui facilitent pas mal la vie et que je trouve qui permettent aux missions d'être beaucoup plus rapides qu'avant.
Oui, puis en plus, tu gères quand même une quantité de bonhommes sur le terrain qui est assez impressionnante. C'est-à-dire que même dans la démo, je sais pas si elle est toujours disponible sur les shops, mais si elle l'est toujours, je vous conseille de la faire. Mais c'est hyper bourrin, en fait, la quantité de mecs que t'as, quoi. T'es, en plus, t'as des renforts au milieu des missions, t'as des trucs comme ça, et du coup, tu te retrouves facile à contrôler une douzaine de bonhommes. Alors, contre pas mal de gens à côté, mais ça rend les combats un petit peu intéressants et dynamiques, parce que tu peux faire plusieurs groupes, tu peux tenter des contournements à gauche, des contournements à droite, t'as généralement plusieurs chemins pour arriver jusqu'à ta mission. T'as souvent des renversements de situation au milieu des missions.
Oui, d'ailleurs, ça c'est parfois un peu relou, notamment dans les dernières missions, j'ai un truc où ils te demandent de capturer des points. Et en fait, au moment où tu captures les points, t'as deux boss qui apparaissent de chaque côté de la carte. Et en fait, moi, il me restait que deux actions possibles et les boss m'ont juste dévasté mon équipe, j'ai relancé la partie. Hein.
Ah putain, ouais, c'est lourd.
Les boss peuvent être vraiment violents dans le jeu quand tu t'es pas préparé à les gérer. Et comme. Malheureusement, il y a beaucoup de cas où les boss apparaissent au milieu de la mission quand tu as atteint un certain point ou réalisé un certain objectif. Ça peut devenir compliqué, voire impossible de finir la mission. Bon, heureusement, tu peux appeler des renforts en cours de jeu depuis les bases. Ça, c'est plutôt bien fait. Mais du coup, ça fait partie des choses qui, moi, m'ont un peu fait râler sur certaines missions. Parce qu'en fait, c'est plus simple de recommencer et de faire la technique qui permettra de tuer le boss le plus vite possible, quoi.
Ah oui, c'est un petit peu dommage. Ça, effectivement, c'est le genre de truc dont on se rend pas compte quand on fait les premières missions, mais qui...
C'est pas le cas dans les premières missions, ouais. Mais genre dès la sixième, t'as un truc comme ça où le boss, il apparaît quand t'as accompli un objectif, ben, si t'es pas prêt à l'affronter, tu vas te faire démonter, quoi.
D'accord. C'est combien de missions au total, Valkyrie Chronicles 4?
Alors, il y a 18 chapitres, avec une ou deux missions par chapitre, ça dépend lesquelles, donc je pense qu'on est à une...
Grosse vingtaine, 25-30 peut-être.
Ouais, auquel tu peux rajouter des missions secondaires qui servent à...
Les escarmouches, c'est ça ?
T'as les escarmouches, et t'as aussi des missions qui sont propres aux membres de ton équipe, puisqu'il y a des missions secondaires pour les recrues de ton équipe qui sont pas les personnages principaux, qui servent notamment à leur permettre de débloquer un potentiel, une espèce de technique personnelle souvent assez forte. Donc en fait tu peux facilement monter à 30-40 missions. Moi je dois être à quasiment 30 heures de jeu là, et j'en suis
au dernier chapitre. Quasiment à la fin, ouais, t'es au dernier chapitre.
Je suis au dernier chapitre, il doit me rester deux maps, je crois. Enfin, j'avais regardé un petit peu le déroulé, il reste deux maps. Donc en fait j'ai quasiment terminé le jeu. Et je crois qu'après il y a des missions supplémentaires si tu veux faire des trucs un peu plus difficiles. Donc il y a moyen de se faire plaisir sur une cinquantaine d'heures.
Du coup, on a Nazlurf là qui demande si le premier vaut le coup. A priori, il est toujours souvent en promo sur l'eShop, ou si tu conseillerais plutôt d'enclencher directement le 4.
Alors, moi, je conseille plutôt le 4. Le premier est bien, je pense que reste jouable. Le 4 a deux avantages, parce qu'il y a pas mal d'améliorations, comme je l'ai dit, notamment plus de variété au niveau des classes, parce que dans le premier, notamment, les scouts ou les éclaireurs en français sont assez rapidement la classe la plus pétée du jeu, et les autres sont complètement à la ramasse. Ce que j'ai pas précisé, mais quand tu déplaces, t'as une jauge de déplacement qui se vide
au fatigue, ouais.
Sauf qu'en fait, pour les éclaireurs, dans le premier, elle est beaucoup plus élevée que pour les autres classes, ce qui fait qu'en fait, les autres classes servent à rien. Enfin, c'est pas que servent à rien, mais sont plus de mal à se déplacer.
Bah, t'as plus de puissance de feu en théorie pour compenser, parce que le scout, il a pas une énorme puissance de feu, mais
si
tu sais viser correctement, tu peux tirer sur un mec et retourner de planquer, puisque t'as largement la jauge de fatigue pour le faire, quoi.
C'est ça, et après, le scout, au bout d'un moment, ils ont accès au lance-grenade.
Ah oui,
c'est pas mal du tout.
Voilà, j'étais une classe équilibrée, un personnage rapide mais pas très fort, et finalement on m'a donné un bazooka.
Ouais, non, mais dans le 4, pour le coup, les scouts sont quand même beaucoup moins forts, je trouve, et du coup les autres classes, en tout cas notamment les mitrailleurs qui sont la classe censée être offensive, sont plus intéressantes à utiliser. Mais du coup, je conseillerais plutôt le 4. L'autre avantage, c'est qu'il est en français intégral, alors que le premier n'a jamais été traduit.
Il était en anglais, ouais. Intégralement.
Intégralement en anglais, pardon, oui. Okay. Non, il était en japonais.
Ah putain, oui, le 4, c'est le premier à sortir en français.
Ouais, mais pour le coup, je conseille plutôt celui-là, et qui plus est, je préfère aussi l'histoire, les personnages et les petites améliorations qui ont été faites, donc...
Okay.
Aller plutôt vers le 4 pour commencer, même s'il est plus cher. Après, si c'est une question d'argent, honnêtement, bah, le 1 vaut le coup toujours, mais clairement vieilli à mes yeux. Enfin, en tout cas, est dépassé par le 4 en termes de gameplay et
de complétude.
Voilà, voilà.
Merci monsieur Antix pour ce joli résumé de Valkyria Chronicles 4.
Qui est du coup un bon jeu.
clairement.
Que je pense qu'on peut recommander. Alors moi, j'attends qu'il baisse de prix, hein. Je suis un gros sac.
Et si vous vous emmerdez en attendant Fire Emblem et que vous voulez un tactical, c'est un bon choix. Hein.
Mais je pense qu'il y a Wargroove et... Bah, c'est pas du tout le même style, en fait.
Ouais. Bah, surtout, c'est une approche du tactical que je trouve vraiment intéressante et différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est pour ça que ça, je trouve que ça vaut le coup d'y jouer, si vous aimez bien le genre.
Si vous avez aimé Codename Steam, je pense que ça peut vraiment vous plaire, parce que c'est... Codename Steam était vite limité par le nombre de personnages sur la carte, alors que là, Valkyria Chronicles 4, apparemment, on peut quand même largement se lâcher, quoi, donc c'est cool. Enfin, moi, je trouve ça cool, le peu que j'y avais joué, ça m'avait vraiment plu, et j'attends une baisse de prix, parce que je suis un gros sale, mais oui, je me ruine chez Limited Run pendant ce temps-là.
En attendant, il met tout son argent chez Limited Run, quoi.
Pas du tout, parce qu'en fait, Limited Run, j'en ai finalement acheté relativement peu, et j'en ai revendu énormément.
Parce à 200 balles la cartouche, t'es
à
gagnant.
À 200 balles la cartouche, t'es gagnant, ouais.
Ah bah,
mais,
c'est clair.
Limited Run, mon problème, en fait, c'est qu'ils sortent beaucoup de merde aussi. Donc, il y a quelques jeux qui m'intéressent et que je voulais vraiment avoir et que je suis très content d'avoir acheté. Et il y en a beaucoup d'autres où, en fait, en y jouant, je me suis dit, mais c'est vraiment une grosse bouse et je les ai revendus. Et voilà, quoi. Et alors après, Mecton, tu les as rachetés. Alors,
ouais, mais je collectionne, moi, c'est ma faiblesse.
Mais moi, c'est plutôt super rare. Honnêtement, aujourd'hui, ceux qui m'ont le moins déçu au global, c'est super rare. Il y a un jeu par mois et les releases sont vraiment hyper clean.
Alors que moi, j'achète en démat, j'ai pas ce problème comme toi.
Oui, mais t'auras pas Stereden en physique.
Il se ruine en carte SD, lui.
Il se ruine en carte SD. Bref, on va faire une deuxième petite pause musicale avant d'aborder le dernier sujet de l'émission qui concernera le Nintendo Virtual Reality. T'as vu, c'était bien dit.
Futur.
Ou le Virtual Boy en carton.
Voilà. Le Virtual Boy en carton. En même temps, s'il avait sorti en carton, le Virtual Boy, ça aurait peut-être été rentable. Voilà, donc on va s'écouter dans la continuité de Demon's Crest. On va remonter en arrière et écouter un petit morceau de Gargoyle's Quest 2, qui est un jeu qui est sorti sur NES, et qui coûte aussi un bras et une couille. Donc
c'est
si vous
le premier
jouer,
qui est sorti sur Game Boy.
Jouez-y en émulation. Le premier est sorti sur Game Boy, ouais. Par contre, le premier sur Game Boy est hyper accessible, même en cartouche Game Boy. Donc si vous avez envie de jouer à Gargoyle's Quest 1, vous pouvez l'acheter sur Game Boy. Il est aussi disponible sur l'eShop de la 3DS pour genre 3-4 euros, un truc comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup si vous l'avez jamais fait, parce que c'est un jeu qui change vraiment des premiers jeux Game Boy, en fait. Les premiers jeux Game Boy avaient tendance à être soit des imitations de puzzle games, soit des portages de trucs existants sur NES, alors que lui, il essaye vraiment de faire quelque chose d'un peu original, et je trouve ça vraiment hyper cool. Ça fait vraiment plaisir, et c'est plutôt un bon jeu avec des musiques vraiment sympas et tout ça. Il est un petit peu difficile au début, mais en fait, une fois qu'on a réussi à, on va dire, passer des deux premiers niveaux, le reste, ça coule tout seul. Donc, vraiment, un très bon jeu à recommander. Et Gargoyle's Quest 2 sur NES, bah, c'est juste plus grand, plus beau en couleur sur ta télé. C'est exactement le même genre de jeu, mais voilà, une échelle un petit peu plus élevée. Et avec une musique. Mais alors, c'est le Capcom des années 90 sur NES. Je vous dis que ça, c'est vraiment un pur bonheur, une BO juste géniale. Donc, Gargoyle's Quest 2, compliqué à jouer en physique, si vous devez y jouer, jouez-y sur émulateur, et c'est vraiment très 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 cool. Et on attend avec grande impatience Gargoyle's Quest Trilogy sur Switch, où il n'y aura que le premier jeu en physique sur la cartouche, les deux autres, il faudra les télécharger.
Parce qu'un jeu Game Boy, ça prend trop de place.
Ça prend beaucoup trop de place, voilà. Bref, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 2 minutes, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Et on ne foire jamais les transitions, monsieur Nazlur. Attention, hein. Ban de 20 secondes la prochaine heure.
Big gros ban, hein.
Maintenant qu'on sait comment marche le ban et qu'on sait comment marche le modéro,
ouais, je fais un clic droit.
Maintenant que Portal a découvert comment on pouvait être un dictateur sur Twitch,
là, ils vont finir par banner le diffuseur.
Dicta Twitch. je voulais faire, enfin, il y a été prévu en théorie 2 sujets de fin d'émission, mais là, comme l'émission commence à être un petit peu longue, on va terminer avec un sujet relativement simple, Nintendo Virtual Reality.
Vous c'est très bien, à la semaine prochaine.
Voilà. Merci beaucoup, les amis, j'ai quelque chose à vous dire.
Et c'était écrit en flou, pour de la VR, c'est top.
Mais c'est exactement ce qu'il fallait.
Oui, mais je peux, en fait, alors que je me défende. Sur OBS, l'écriture est floue, et je sais pas pourquoi.
Je te taquine, hein, c'est pas...
Non mais sérieusement, et ça me trigger aussi, parce que tout le reste est ultra net, parce que je l'ai fait sur Photoshop en 4K pour rien, genre.
Oh putain.
Et je l'adapte donc en 1080, donc du coup ça donne scale, c'est super propre. Et par contre, l'écriture est floue.
C'est dégueu.
Et je sais pas pourquoi.
On dirait un jeu 3DS.
Bah, c'est...
Non, il y a pas de aliasing. Genre c'est flou, c'est pas aliasing.
Alors, est-ce qu'on peut reprendre le cours normal?
C'était une transition baisée.
C'était cette transition vous était offerte par Galaxies.
Transition en carton, lol. Voilà, lourde transition, maintenant casque de verre en carton. Qu'est-ce qu'on en pense, Mortal?
Une Payokai se retourne dans sa tombe.
Ça y est, il est 22h, ils ont dépassé la date de péremption.
Les 3 grammes, on a dépassé les 3 grammes.
C'est possible. Alors attendez, parce que je sais plus où j'en suis, dis-moi.
Oui, Nintendo VR en carton.
Nintendo VR en carton. Donc, Nintendo Labo, le quatrième kit. Donc après le robot, après le variété, après le robot, après les voitures, les voitures et tutures. Yeah. Le dernier kit, c'est AVR.
Spoiler, moi je voulais.
Alors, sachant que ça va sortir en deux versions, il y a une version à 80 balles.
Où il y a tout. Beaucoup de balles.
Ça fait beaucoup de balles. Où il y a tout, c'est-à-dire il y a l'éléphant. Faudra que je vous montre un truc sur les éléphants après, mais je suis pas sûr. Je peux pas vous le montrer en direct.
Putain, j'ai peur.
vous devriez.
Un éléphant, ça trompe énormément.
Non, oui, je vais aller le chercher. Là. Je vais couper mon micro dans deux secondes quand je vous donnerai la parole. Je vais aller le chercher, mais je pense que vous allez le regretter très fort.
Ah.
Bref, donc, il y a la version à 80 balles qui contient donc les... Alors, je crois qu'il y a 4 casques au total, avec 4 expériences VR différentes. Il y a une espèce de caméra, appareil photo, je sais pas trop quoi. Il y a je regarde dans le cul d'un canard. Je suis désolé, j'ai pas d'autres mots. Il y a l'éléphant. Enfin, en tout cas, on a l'impression que c'est un éléphant, puisqu'on a une espèce
c'est
de bras
trompe,
mécanique,
oui.
C'est une trompe. Et il y a un dernier truc, je sais pas ce que c'est juste le truc de base, apparemment.
Machin avec la jambe, là, ouais, je sais pas.
Ouais, j'ai pas compris. C'est un Virtual Boy. et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a aussi un deuxième kit qui est disponible. Pour 40 balles, tu as le truc de VR classique, normal.
T'es con.
Et ça arrête. Yoshirio, s'il te plaît, on peut pas se concentrer. Et en fait, pour 20 balles chacun, tu peux acheter le casque éléphant et le casque le cul du canard. Donc c'est cool en fait parce que tu l'achètes avec peu de moyens finalement. Si tu veux juste tester de la VR sur Switch à 40 balles, tu peux le faire. Si tu as envie d'avoir l'expérience complète, c'est 80 balles et il n'y a pas de surtaxe particulière. Tu peux l'acheter quand tu veux. Enfin, il y a vraiment. Je trouve plutôt cool comme façon de le packager en fait. Et du coup, ça marche relativement bien. Ce qui inquiète tout le monde, c'est le fait que de la VR sur un écran 720p, ça va être dégueulasse.
Ouais, ils appellent ça une expérience VR, ça passe.
Bah pour toi, c'est pas de la vraie VR. Ça n'a pas la prétention d'être de la vraie VR.
Voilà, après, je te rappelle que j'ai eu le premier kit de l'Oculus dans les pattes. C'est acceptable tant que tu y restes 10 minutes. Et je sais pas quelle était ton expérience du labo sur les précédents kits, mais c'est à peu près comme ça que je le consommais, moi. 10 minutes par-ci, par-là pour me marrer, et puis après, tu passes à autre chose, quoi.
Un petit peu curieux en fait parce que Labo en fait c'est très amusant à construire.
Hors construction, hein, hors construction, vraiment en plein jeu.
Ah, en jeu lui-même, ça dépend des jeux en fait.
Ouais. Bon.
L'aquarium, la pêche, je crois que personne n'y a joué. Enfin, on a dû essayer une fois.
Bah, ça t'en fait le tour vite quoi.
T'en fais le tour assez vite, ouais. La maison, mes enfants ont bien accroché, ce dont on parlait sur le forum avec Tardy qui disait c'est étonnant parce que c'est le jeu le plus nul, mais comme c'est celui où il y a le plus d'interactions. Je pense que les enfants, ça leur parle, en fait, comme jeu.
Mm.
Le piano, okay. Plutôt un gros succès chez moi.
Chez David Guetta aussi.
J'ai envie de... S'ils vendent des Nintendo Kilt à l'unité... je me suis entremêlé mes blagues, c'est pas grave. Des Nintendo Labo à l'unité. Le piano, je suis très chaud. Mais le reste, ça me saoule.
Alors, le piano est vraiment cool, hein. Donc, même dans la conception du piano, il est assez foufou. Donc, et puis, c'est pareil, en termes d'interaction, je le trouve plus intéressant que les autres. Parce que finalement, la moto, la moto du premier kit, hein, le truc où tu tournes et puis t'as un accélérateur et machin qui a un élastique, c'est cool, mais c'est pas fou, c'est pas hyper précis. Alors c'est cool dans Mario Kart par contre.
Ouais, c'est très drôle.
C'est très fun, mais faut conduire une moto. Mais voilà, après le kit véhicule, moi je le trouve plus réussi que les autres. C'est-à-dire, le kit robot, honnêtement, on a dû. Une fois qu'on avait fini le robot, en fait, on y a joué parce qu'il fallait vraiment jouer. Une fois que t'avais fini le robot, une fois que t'as passé 3 heures ou 4 heures à construire le robot, ben tu y joues avec, quoi.
C'est comme les Lego, quoi. Genre, c'est marrant à construire, mais après, tu le laisses dans un coin, ça prend la poussière.
Alors, je ne suis pas d'accord, mais voilà, j'en ai eu beaucoup quand j'étais jeune et j'avais de la place vu que j'étais en province.
Hein?
Voilà.
Enfin, des Lego du Nintendo Robot, là.
Non, des Lego.
Oui, mais les Lego, tu joues pas.
Enfin, bah, si, tu joues, t'es fou, toi. Attends, tu veux juste que ça prenne la poussière, c'est pas un amiibo, hein.
Ouh.
Touché.
Non, mais sérieusement, les Lego, moi, j'ai bon, petit moment, je raconte ma life, mais tous mes plein de potes qui avaient des Lego, c'est genre marrant à construire, mais en fait, tu touches pas de ouf après, quoi. Enfin, tu joues pas vraiment avec comme des jouets, genre des figurines articulées ou autre.
C'est pas tout à fait la même chose. C'est ça le problème. Ça dépend de l'âge à laquelle t'as eu. C'est toujours pareil. Moi, mes enfants, ce que je vois, c'est que les Lego, ils les construisent. Que ce soit le gamin ou la gamine, d'ailleurs. Les Lego, ils les construisent. Et en fait, après, ils s'amusent à les déconstruire pour pouvoir les améliorer. Alors, les améliorer, je mets des guillemets, hein, c'est améliorer. C'est-à-dire, genre, le vaisseau Star Wars du gamin, machin, a rajouté une tourelle, a rajouté un machin, a rajouté un robot là. Enfin, c'était un vrai bordel, son truc.
J'imagine tellement faire ça, en plus.
On dirait Starlink.
Ouais. Non, mais c'est ça.
Par contre, bah, ça me fait marrer, ça.
Mais voilà, mais moi, ils jouent vraiment avec, mais ils jouent à construire et à déconstruire le truc, ouais, voilà. Ou alors à le casser, puis à le refaire en plus petit, puis à
c'est
essayer
un peu le concept de Lego Galaxy 100. Ah oui, bah, non, voilà, mais d'accord. Après, mais est-ce que quand tu dis jouer, Adrien, excuse-moi, j'ai dévoilé ton identité secrète.
et je pars dans un piège de fumée.
Je voudrais l'appeler est-ce Maître Drosgar.
Maître Drosgar, est-ce que quel était votre usage des Lego?
Alors déjà j'adorais les construire et ensuite je m'amusais avec car comme je n'avais pas d'amis, il fallait bien que je me crée des personnalités.
Ah oui, mais tu faisais genre piou-piou avec ton vaisseau, tu le construisais,
ouais, voilà,
tu le déconstruisais
puis,
pas.
Il parlait et puis j'ai l'impression d'être un enfant atteint d'autisme et ça m'inquiète un peu en fait.
Mais mais il nous a fait
frimer le jeu bar.
Mais j'ai peut-être pleuré après cette émission.
Ouais.
Mais ça, c'est à cause des mais vaccins. Voilà, alors que Nintendo Labo, est-ce que l'intérêt principal c'est vraiment de démonter et de remonter le carton?
Ah non, pas du tout.
Non,
je ne pense
pas. Jouer après. Sauf que,
non, alors,
bon.
C'est intéressant à construire. Et pour moi, ça peut être intéressant à utiliser après, à condition que les jeux qui vont avec soient intéressants. Et jusqu'à présent, le problème, c'est que les jeux qui étaient associés avec, c'était quand même pas fou. Donc ça reste rigolo à construire. Et honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à les construire, que ce soit avec ma femme ou avec les gamins, ou avec les deux en même temps. Des fois, on faisait avec la femme et les gamins, le robot, on l'a construit à quatre en famille, et c'était vraiment marrant à faire. Tu passes vraiment une bonne après-midi, un dimanche après-midi pluvieux, c'est génial comme occupation, quoi. Alors, tout le monde est autour de la télé, il y a le machin, il y en a un qui prend la télécommande pour faire avancer, il y en a un qui... connard. Il y en a un qui monte un truc d'un côté, il y en a un autre qui va monter un truc en parallèle, tu fais un peu le chef d'orchestre, tu fais avancer, tu fais reculer. Voilà, et après tout le monde peut essayer les vieux trois mini-jeux. Et voilà, mais c'est tout. Les jeux, ils sont pas foudroyants, quoi. Le kit véhicule, je dis que c'est le plus intéressant parce que finalement l'avion est super maniable et c'est agréable à manier, mais le sous-marin, il est pas terrible. La bagnole est pas folle non plus. Et je me dis, l'expérience VR, oui, pour connaissant le truc, pour 80 balles, je trouve que ça fait un poil cher. Maintenant, si ça peut permettre à pas mal de gens de découvrir la VR à un prix beaucoup plus raisonnable qu'un PlayStation VR ou qu'un Oculus ou qu'un... merde, je sais même plus comment il s'appelle, le dernier.
Ouais,
bah, pourquoi pas, quoi.
Ouais, Vive. Non, mais... Alors, le truc de VR, déjà, il faut qu'on apprenne à Nintendo que quand même un casque VR, il peut tenir tout seul sur la tête. Parce que ça soit le Virtual Boy ou le Nintendo Labo, là, t'es obligé de le tenir.
Il y en a un que tu tiens pas,
tu veux te balader avec.
Non, et tu les tiens tous?
Bah, j'ai l'impression, j'ai pas vu spécialement d'élastique pour le tenir au-dessus de la tête. Enfin, c'est compliqué en même temps sur le carton. Mais sérieusement, bonjour. Oui, sérieusement, la VR, c'est accessible depuis pas mal de temps. Et c'est vrai qu'il faut voir les jeux qui vont avec Nintendo Labo. Et j'ai peur que ça fasse un petit plou. Que ça soit un petit pétard mouillé.
De manière générale, j'ai l'impression que Nintendo Labo, ça a bien marché.
Ouais, mais la VR.
Mais voilà, quoi, c'est pas non plus fou.
Le truc, c'est que ça permet. Comment dire ? C'est une offre VR qui profite de la pub que peut leur faire Nintendo, en fait. Enfin, c'est plus ça. Parce qu'en vrai, quelqu'un qui veut faire un peu de VR.
C'est effectivement une espèce d'entrée de gamme qui permettait de dire hé, la VR, c'est pas si inaccessible que ça. Regardez, chez Nintendo, il y en a, c'est un truc tout bête, tout con. Mais vous voulez essayer, voir si ça peut vous plaire ? Il y a ça, ça coûte pas si cher que ça si vous avez déjà une Switch.
Ouais, mais quelqu'un qui veut faire de la VR, finalement. Il s'achète un casque en plastique chinois à 20 balles sur Amazon. Il fait de la VR avec son portable avec une résolution qui est quand même bien meilleure que celle de la Switch. Parce qu'on rappelle que la Switch, c'est du 720p.
Mon téléphone, c'est du 720p, monsieur.
Oui, mais la plupart des téléphones, maintenant, sont en Full HD. Si c'est pas plus,
parce
qu'ils ont un ratio bizarre.
Et ils font toujours 5 pouces.
Mais, enfin, honnêtement, ça me paraît quand même être assez compliqué. Parce que quand on voit déjà... Un HTC Vive qui a 2K à chaque œil, il me semble. Corrigez-moi sur le chat si je me suis trompé. Déjà, ça pixelise un peu. Avec du 720p, ça risque d'être foncièrement dégueulasse. Il y a moins de faire du pixel art, mais du pixel art en VR.
Ça peut être rigolo.
Voilà. À moins que.
Oui, parce que finalement, ça fait une image qui serait en 360p sur chaque œil. Je dis de la merde ou pas ?
Bah ouais, non, c'est ça. Mais on voit les lentilles pour agrandir le truc, sauf que les lentilles, ça crée pas des pixels, Nintendo.
Après, ça fout peut-être suffisamment l'image. Enfin, moi, je m'en branle, je suis myope, donc de toute façon...
Vis ma vie de myope.
J'ai envie de te dire, le truc VR est pas si loin de ton visage que ça. Normalement, il y a pas de problème.
Tu te rends pas compte à quel point je suis myope.
Le mec est tellement myope qu'il est presbyte, genre.
Et surtout, faudra voir les expériences qui seront fournies avec, parce que là, on a juste vu la jaquette, en fait.
On a vu la jaquette et on a vu l'éléphant, on a vu les deux trois trucs,
mais c'est plus sur la technique moi que ça me fait un peu peur.
Par contre, ce qui est intéressant au niveau de la boîte, c'est qu'il y a des enfants dessus et que c'est peut-être la première fois qu'un équipement VR s'adresse à des enfants. Il me semble que de mémoire, c'est pas très conseillé de base.
Ouais, t'avais vite fait le Google Daydream, qui avait le casque VR de Google pour ses pixels. Téléphones smartphone pixel qui vite fait ils avaient accès le truc en mode il y a des applications pour les enfants sauf que le Daydream est mort le jour où il a été annoncé.
Bah en fait personne ne s'en souvient, d'ailleurs j'étais pas au courant,
c'était le Daydream.
alors que oui, là Nintendo, ouais, ils ont un vrai positionnement, mais c'est pour ça que moi je pense que le seul truc qu'a gagné Nintendo le Nintendo Labo, le seul intérêt c'est de profiter de l'exposition de Nintendo, quoi. Pas
pour toi, c'est ça, c'est vraiment... Est-ce que pour vous, c'est une expérience de Nintendo pour voir si la VR, ça peut prendre ? Sachant que, bon, la VR, honnêtement, ça a été un vrai pétard mouillé de toute façon, puisque ça a été un truc...
Quoi. Mauvaise
Il y a plus d'utilisateurs de Linux sur Steam que d'utilisateurs de VR sur Steam. Pour te dire
Et
à quel point tout le monde
VR sur Linux.
La VR, c'est pas un truc qui rentrait dans les foyers, en fait.
Mais en fait, oui, c'est ça. Ça a
été c'était
même...
trop cher quand...
C'était quand même un gros four.
Ça marche pour les expériences pro.
Oui, et passive. Parce que dès que t'as un input à faire, c'est limité. Mais comment tu le vends dans une pub à la télé ? Comment tu le...
Bah c'est surtout
tant que tu le testes pas, tu ne comprends pas ce que c'est.
Mais même une fois que tu l'as testé, enfin...
fois que tu l'as testé, c'est rigolo 10 minutes et tu le reposes. Ça, c'est mon expérience perso, mais...
Moi, mon expérience perso, c'est que la descente est atroce et que, honnêtement, plus jamais ça, quoi.
Moi, ça, je l'ai bien vécu.
Ouais, pareil. Honnêtement, ça va. Genre, niveau motion sickness et tout, je trouve pas ça si violent que ça.
Non, moi, c'est la descente que je trouvais violente. C'est pas le motion sickness. C'est le fait qu'une fois que t'enlèves le casque, moi, j'avais l'impression que tous les objets étaient à 40 mètres de moi, quoi.
Non, mais. Ouais. Enfin, ouais, je vais aller voir un médecin.
Je suis d'accord avec Nazlurf sur le chat, c'est un peu la mort du fun, quoi. Tu partages plus ton jeu.
Oui, non, c'est clair, tu peux plus jouer à deux. Enfin, ça vous est forcément déjà arrivé de jouer à deux, même avec une seule manette, au sens où t'es en train de faire
partager,
un truc.
Tu montres ton truc.
C'est ça. Et puis, qu'il y a le mec d'à côté qui te fait chier en disant « Hey, t'as pas pris le rubis, là ?»« Mais t'as pas pris le rubis ? Mais qu'est-ce que tu fous, t'as pas pris le rubis ?» Ah, je suis désolé, c'est aussi le partage. C'est compliqué de le partager en VR.
Non mais c'est après l'écran est aussi rendu sur le PC. Ça, enfin, je sais pas, je trouve c'est un peu un faux argument, genre. Le partage d'expérience, oui, il a pas de. En soi, oui, quand, même si quand t'es sur PC, tu peux dire. Genre, tu te fais un Counter-Strike, il y en a un qui prend le clavier, l'autre la souris, et.
Mais non, mais même pas ça, mais attends, mais je suis désolé, moi je suis d'accord avec l'argument que ça t'isole. C'est-à-dire que quelqu'un t'appelle pour mettre la table, bon, voilà quoi, t'as un casque de verre sur la gueule, faut que t'enlèves tout l'équipement, que tu... Enfin, je sais pas. Moi, il y a un truc qui me sort énormément d'une expérience, par exemple, c'est s'il faut 25 minutes pour le setup, quoi. Et j'ai l'impression que la VR, c'est quand même un peu ça aussi. Et j'avais toujours dit, j'aime pas les trucs chiants à bouffer, tu vois, genre le crabe, ça me casse les couilles, j'aime bien le goût et tout, hein, mais ça me fait tellement chier de le dépiauter qu'en fait j'en mange pas. Parce que ça me casse les burnes, j'ai pas envie de passer 40 ans à bouffer un truc qui est bon, ok, mais qui est pas extraordinaire. Et il y a plein de trucs comme ça où je me dis, mais si tu dois mettre 25 minutes pour setup ta partie et que t'es obligé de faire une pause toutes les 30 minutes parce que bah, c'est quand même un peu fatigant, soit pour les yeux, soit pour les muscles, soit pour autre chose. Mais putain, la galère, quoi, le truc invendable. Bah. Et effectivement, qui ne s'est pas vendu, hein, de toute façon. C'est-à-dire que l'histoire me donne raison, globalement, la VR, tout le monde s'en bat les couilles, quoi.
Mais je sais pas si c'est pour ces raisons. Enfin, tu vas me détester.
C'est peut-être pas pour ces raisons-là.
Hein, mais voilà. Parce que je te contredis depuis tout à l'heure.
Prix, hein.
Mais j'ai un ami qui en a un. Et c'est. En fait, une fois que tu l'as configuré. Oui, non, ça va. Une fois que tu l'as configuré, t'as pas de. Tu l'as configuré une première fois. Après, c'est absolument pas galère, genre. C'est vraiment juste, tu le branches et c'est reconnu. Et encore plus sur une nouvelle génération de casques. Non. Oula, oui, c'est bon. Puisque tous les casques Microsoft, Mixed Reality, t'as même pas de... Les capteurs sont sur le casque. Donc t'as même pas de caméra de tes morts à mettre dans tous les coins de ta maison.
Donc, parce que les premiers, le plus avancé qui était le HTC...
Le HTC Vive, il y a des caméras infrarouges à placer.
C'était la folie, quoi. Comme...
Et ça, bon, encore, c'est pas trop galère, mais je comprends que ça puisse dégoûter un peu certains, pas dégoûter le mot est fort, mais je veux dire
oui,
que certaines personnes
puissent
être réticentes, quoi. Réticentes.
Alors que c'est vrai qu'avec une Switch et un bout de carton, tu prends pas beaucoup de risques. Hein.
Oui, totalement. Mais je pense que le problème principal de la VR, et c'est sur quoi je pense Nintendo va peut-être pouvoir innover, c'est le fait, effectivement, comme vous le disiez, de le vendre. Et
parce que c'est plus grand nombre.
C'est compliqué de retransmettre l'expérience de la VR à travers une pub. Et les seules 2-3 pubs qui sont à peu près potables, c'est celle de Sony, en vrai, où tu captes bien le fait que... où le masque, en fait, où le PSVR est transparent et le joueur est dans le jeu. Et c'est-à-dire que c'est pas son salon, c'est le jeu. Mais j'ai l'impression que c'est le plus proche qu'on puisse se rapprocher d'une description de ce qu'est la VR. C'est vraiment très compliqué. Et je pense que c'est sur ça que Nintendo va être attendu au tournant. Enfin, s'attend au tournant, en tout cas.
Et est-ce que vous pensez que ça va être un tremplin? C'est-à-dire que plus qu'un... Je reviens sur ma question de base, hein, mais une espèce de test... en se disant, est-ce que la prochaine Switch, on la fait pas avec un écran intégré qui fait 4K? Et boum, comme ça, le prochain Nintendo Labo VR, machin, bah, y a pas de problème, on l'a déjà dans les cartons, on a déjà le brevet, on a déjà le brevet, on a déjà tout ce qu'il faut, non, c'était même pas fait exprès. On a déjà tout ce qu'il faut et ça marche immédiatement, quoi. Est-ce que vous pensez que ça peut être une espèce d'expérience qui permet à Nintendo de tester le truc, c'est-à-dire de vraiment mettre un orteil dans la piscine en se disant est-ce qu'elle est froide, est-ce qu'elle est chaude? Ou est-ce que c'est vraiment juste, bon, c'est rigolo de se mettre un truc de... scotcher sa Switch sur sa gueule, c'est rigolo. On vous l'avait déjà dit il y a 2 ans. Voilà.
Bah non, ils étaient réticents, non, en plus. Nintendo, à la base,
ils
disaient qu'ils ne voyaient pas d'intérêt
plutôt
dans la VR.
Mais étonnamment, ils sortent un kit Nintendo Labo VR. Et je veux dire, sans sourciller, sans rien, quoi. Avec 4 mini-jeux dedans qui vont probablement pas être ouf, mais... Voilà, ils ont toujours dit qu'ils étaient réticents sur le sujet, et finalement, ils en font un, donc c'est quand même bizarre.
Ouais, après, est-ce que Nintendo, ils sont du genre à voir si ça marche avant de proposer un truc qui est radicalement différent des autres?
Bah, en général, ouais.
La Wii, est-ce qu'ils avaient testé... Ah, ça, enfin, vous pourrez me dire. Est-ce qu'ils ont testé le motion gaming avant? Avec la GameCube ou N64?
Mais ils l'avaient testé en lab, hein, en tout cas.
Oui, mais...
Pas auprès du public.
Ouais,
ça,
voilà.
C'est la question. Pas auprès du grand public.
Cela dit... Avec les réseaux sociaux ou tout... C'est beaucoup plus facile de prendre la température, je suppose, qu'il y a 20 ans.
Bah là, je sais pas quel est l'accueil général que vous avez vu pour l'instant sur la VR de Nintendo. C'était quoi? C'était plutôt froid parce que techniquement ça allait être une galère.
Rosgar, qu'est-ce que t'as vu, toi, sur Twitter?
Je t'avoue que... Attends.
Il va regarder maintenant, ma fenêtre. Journalisme total.
Les gens sont pas des masses au courant, quoi.
Ouais, et moi j'ai l'impression que tout le monde s'en fout un peu.
Le sondage l'attendait. Qu'est-ce que vous en pensez?
Nintendo Labo, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que c'était une très belle... Quand c'est sorti, ça a étonné tout le monde, et voilà.
Ça fait des belles idées cadeaux.
C'est ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont acheté le kit 1. Le kit robot, il y a déjà beaucoup moins de gens. Le kit véhicule, à mon avis, ça a pas dû être un gros succès. Je pense que le kit vert, ce sera peut-être le dernier. Peut-être plus que le robot, hein, mais le robot est quand même très cher.
Ça fait quand même beaucoup de cartons pliés à mettre dans un camp, quoi.
Ouais, puis c'est pas... Bon, c'est rigolo, hein, mais ça fait quand même pas grand-chose. Mais j'ai un peu l'impression que, de toute façon, Nintendo Labo, bon, ça va gentiment s'éteindre. Il y aura peut-être un cinquième kit, mais c'est même pas sûr. Voilà, maintenant, le résultat que j'ai vu, moi, c'est tout un tas de gros geeks barbus qui disaient « Mais ça va être nul en 720p !» Et puis je me dis, mais en même temps, le grand public s'en bat les couilles, puisque jusqu'à présent, ils ont jamais pu... Enfin, vous connaissez les gens qui ont essayé un casque
c'est vraiment
des gens normaux.
Genre, j'ai vraiment... Après, je sais pas, les lentilles peuvent faire une grosse différence, effectivement. Mais prends ne serait-ce que ton téléphone en 1080 et...
Il fait 720, je t'ai déjà dit.
Non, mais c'est une image.
J'ai trouvé le tweet que j'avais trouvé drôle à ce moment-là, je l'avais enregistré. Je vous coupe en plein milieu, c'est pas grave.
Vas-y.
C'est un mec qui dit ce Nintendo Labo VR Kit, c'est moi ou la fille a son nez dans le cul d'un oiseau.
Merci voilà, beaucoup.
Voilà, on a bien pris la température.
Retirer des signets. Voilà.
Non, mais c'est. Va mettre ton. Pas ton téléphone du coup, mais. Va mettre un téléphone dans un truc en 1080. C'est moche, hein, déjà.
Oui, mais.
720 par œil, c'est un peu limite, hein.
Ouais, non, mais c'est toujours pareil, ça dépend de l'expérience qu'on te propose.
Oui, c'est sûr. Après,
si l'objectif, c'est juste de regarder le cul du canard en gros plan, ça doit passer.
Bah, ça fait cher déjà l'image. Ça fait cher le PNG. Ensuite, expérience de jeu zéro, quoi.
Non, mais après, expérience de jeu, je pense que ça va être assez nul. Hein.
Limité, ouais.
Je sais pas ce que va faire l'éléphant, mais si avec ta trompe tu peux aller mettre ta trompe dans le cul du canard.
Je sais pas ce que va faire l'éléphant.
Je vais vous envoyer l'éléphant juste après, les gars, parce que faut absolument que je le fasse en ligne, parce que je suis désolé, vous allez vous chier sur la gueule, donc je peux pas me permettre ça.
Et Yoshiro qui nous dit, les mêmes qui disaient que la Switch serait nulle avec un écran 720p en 2017, mais c'est pas exactement pareil hein, quand même, parce que tu l'as pas sur ton nez. La Switch, normalement. Je veux dire.
Non, tu l'as pas sur ton nez, mais. Si c'est pour faire un jeu comme Resident Evil 7, tu fais des longues sessions de jeu, faut que ce soit immersif. Si t'as pas 2K dans chaque œil, effectivement.
Ah, mais il faudrait 4 bras, là, ou alors ils prévoient la lanière.
Bah, je sais pas comment ils font après. Si c'est juste pour dire, tiens, regarde, en fait, t'es en haut, t'es un canard, donc t'es pas dans le cul du canard, t'es un canard. Et t'es en haut d'un arbre et tu peux regarder tout autour de toi, bah voilà, ça dure 30 secondes et c'est réglé, et ça te donne une petite idée du truc et c'est rigolo.
Enfin, ça fait cher les 30 secondes, hein.
Ça fait cher les 30 secondes.
C'est ça.
Maintenant, tu gardes le montage aussi. Hein.
Est-ce qu'il n'y aura pas aussi une tentative de réalité augmentée? Parce que dans les Toy-Con, j'en ai vu qu'il y en avait un ou deux où tu avais le Toy-Con avec l'infrarouge au bout.
Ouais, mais alors le problème, c'est qu'avec l'infrarouge, je vois pas trop ce que tu vas faire comme réalité augmentée.
Tu vas bien faire un trou dans ma Switch, moi je dis non.
Tu fais une réalité augmentée Virtual Boy.
Attends, si
tout
ça
en
se
trois
trouve,
fils de fer dégueulasse.
Je suis désolé, mais si ça se trouve, il y aura, et vous n'en savez rien du tout, parce que vous êtes. Voilà. Il y aura peut-être des jeux console virtuelle Virtual Boy, et en fait, c'est prévu pour ça.
Est-ce que le mal de crâne instantané serait émulé? Parce que pour avoir testé la Virtual Boy 30 secondes, j'ai mal de crâne instantanément.
Ouais, mais alors.
Je l'ai jamais testé, j'ai hyper envie de le faire.
Pareil, la Virtual Boy, le truc, c'est que c'était posé sur un trépied. Donc
oui,
à la limite,
c'est pas gênant,
mais à la limite tu posais ta tête, sauf que là tu dois tenir le
casque
attends,
il y aura
avec
le
les mains.
Il y aura le kit 5 qui sera les pieds
les lanières.
En carton
formidable
pour pouvoir jouer, bien sûr. Mais vous faites chier, va rigoler.
Drosgar a l'air emballé tout de suite.
Oui, tout à fait. Je suis vraiment très habile de mes mains en plus, donc j'adore ça. C'est vrai que c'est une passion chez moi, le carton, le bricolage, tout ça. Si vous avez rien à faire, venez chez moi réparer le garage de ma mère, ce sera plus simple. Hein.
Vous avez entendu, mademoiselle,
ouais, réparer le garage carrément. Bon. La maison, elle s'effondre, genre.
On est pas loin. Bref, bon, on va se quitter là-dessus. Sur une note un petit peu mi-fi, mi-raisin. J'aime bien cette expression à la con. Bref, et on va se retrouver alors la semaine prochaine en podcast, mercredi normalement. Je suis désolé d'être un peu à la bourre de temps en temps. Sinon, on se retrouve dans deux semaines. Je sais absolument pas de quoi on va parler, mais c'est pas bien grave parce qu'on va bien trouver
des choses.
Yayoshi, ouais, mais j'ai peur qu'on soit un peu short et je suis pas sûr qu'il sera sorti parce qu'il sort vraiment fin mars. On avait 2-3 idées d'émissions sur le feu, donc on va peut-être en discuter un tout petit peu après. Surtout qu'on a 2-3 autres trucs à préparer avant, des choses qu'il faut impérativement que je parle à mes petits camarades, mais peut-être pas tout de suite parce que malheureusement demain matin faut que je me lève extrêmement tôt. Donc voilà, on va se quitter là, on se retrouve dans 2 semaines quoi qu'il arrive. Je connais pas le sujet, mais vous inquiétez pas, on trouvera bien quelque chose. Voilà, à ciao, bisous tout le monde, à dans 2 semaines.
Allez, rentrez chez vous.
Bisous.